Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bienvenue, comment ça va? Bonjour, le thé est bouillant, let's go. Bonjour à tous, le café est chaud, tout va bien. Bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien? Bonjour, merci pour les subs et les resubs, merci Space Camembert, merci Zano29, merci Led Zeppelin, merci Pemph, merci Art Miss Diane, merci Docobri, merci Pécoding. Merci Jenny Clink, Jenin. Merci Dadar, merci Nain. Merci Trabarak. Merci Space. Bonjour! Incroyable! Est-ce que ça va bien? C'est ici qu'il faut donner 49,3 euros? Oui. Bonjour tout le monde. Merci Flingouin. Pour ton prime, merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue sur ce stream du 49.3, ça y est! Ça y est, OMG, le 49.3 a été dégainé. Mercredi, comme c'était attendu. Incroyable, merci Bébert. Petit morceau d'abondance. Ah, oh, j'avoue, j'en ai pas. Lendemain de cuite, ouais, carrément. Merci Adramelch. C'est quoi cette histoire avec Zerator? Je comprends pas. Space Camembert qui offre 5
subs! Cette étude, je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour les 5 subs. Space Camembert, merci beaucoup. Merci Zébraltar pour ton prime. Bonjour, bonjour. J'ai suivi en direct l'annonce de Borne alors que j'étais en cours. C'était assez intéressant à suivre. Ah bah tu m'étonnes. Oui. Elisabeth Borne l'a annoncé hier dans le cadre de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le 49.3 a été dégainé. À partir de maintenant, enfin à partir d'hier, aux alentours de 17h du coup, les groupes d'opposition ont 24 heures pour déposer une motion de censure. Et à partir du moment où les motions de censure ont été déposées, elles ont 48 heures ouvrées pour être examinées. Donc elles seront probablement examinées lundi. Je crois que c'est ça, ce 48 heures ouvrées. Zerator était invité de Pastèque sur la chaîne Twitch de France Inter. Bah tant mieux. Donc voilà. Donc motion de censure qui vont être déposées, tout ça, 49.3, on va en parler. Zerator était chez Élise Lucet ce soir aussi. D'accord, ok. D'accord. Bah, let's go. De quoi, dans Cache Investigation? Ou dans une autre émission? Je sais pas, je regarde pas la télé. J'ai rien compris à cette histoire de motion de censure qui passe en priorité. Tu fais référence à quoi? Tu fais référence à quoi? C'est-à-dire que à partir du moment où le 49.3 est déclenché, il n'y a rien d'autre qui peut se passer que l'examen des motions de censure. C'est ça que ça veut dire prioritaire. Enfin, on examine les motions de censure s'il y en a. Il y en aura en l'occurrence, mais s'il y en a, on les examine. C'est la priorité. Merci Frédéric pour les bits. Pour les 49.3 bits. Laquelle est votée en premier entre le RN et LFI? Ah, ça c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Il y a plusieurs motions de censure par plusieurs groupes. Pourquoi il y en a plusieurs? Parce que chacun des groupes a la possibilité, s'il le souhaite, de déposer une motion de censure, déjà. Et par ailleurs, les motions de censure sont différentes les unes des autres. Les groupes ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur leurs motions. C'est dans l'ordre des dépôts. Ça m'étonnerait pas que ce soit dans l'ordre des dépôts. C'est quoi une motion de censure précisément? Alors on va le lire tout à l'heure parce que celle de la NUPES a d'ores et déjà été publiée. On va la lire ensemble. C'est quoi une motion de censure? C'est très simplement un texte qui n'est pas une loi, qui n'est pas un amendement, qui n'est pas. C'est un texte politique qui fait une page, deux pages, trois pages, 20 pages, tout ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas vraiment d'obligation formelle. Et c'est un texte qui propose le renvoi du gouvernement. Voilà, c'est pas une loi, c'est simplement une proposition de le gouvernement dégage, et le texte a vocation à expliquer pourquoi, selon les députés qui votent la motion, le gouvernement doit dégager. C'est ça, une motion de censure, tout simplement. C'est une motion de défiance, et nous ne sommes pas contents, et voilà les raisons pour lesquelles. La motion de censure, c'est la version parlementaire de la manif, en fait. Ouais, sauf que la motion de censure, elle peut avoir un effet immédiat, alors que la manif peut avoir un effet politique, mais pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des motions de censure qui ont été adoptées dans l'histoire? Dans l'histoire de la Ve République, il n'y en a qu'une qui a été adoptée, c'est en 1962. Pourquoi on fait des motions de censure à la suite d'une annonce de 49-3? S'ils ne veulent plus du gouvernement, ils vont contre le 49-3, pas besoin de motion de censure. Bah si, c'est le principe. Justement. Mais tu as raison de rappeler que la motion de censure n'a pas besoin de 49-3 pour être déposée. Un groupe peut, s'il le souhaite, déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale. Ça avait été le cas dès juillet dernier avec la NUPES, qui avait une partie de la NUPES, c'était surtout les Insoumis, qui avait déposé une motion de censure. En dehors de toute 49-3, etc. J'avoue que j'ai du mal à comprendre le 49-3. En fait, c'est marrant parce que j'y réfléchis hier sur le 49-3 qui a été déclenché par Elisabeth Borne. Le 49-3, c'est un article de la Constitution qui prévoit un mécanisme que je vais vous expliquer. Mais en réalité, si on regarde à l'usage, il faut bien comprendre que, je ne sais plus de qui est cette phrase, mais c'est une phrase typique d'étudiants en droit constitutionnel. La Constitution, c'est à la fois un esprit, une lettre et une pratique. C'est pas le doyen Vedel qui disait ça, je sais plus, peu importe. La Constitution, c'est un esprit. L'esprit de la Constitution, c'est une certaine philosophie de l'exercice du pouvoir, de son organisation, des pouvoirs publics, etc. Donc on peut dire, dans l'esprit de la Constitution, il faudrait que, etc. etc. Okay. Ensuite, la Constitution, c'est une lettre, c'est-à-dire que c'est un texte, elle dit des choses, c'est écrit sur le papier. Et enfin, la Constitution, c'est une pratique. C'est pas parce que c'est écrit dans le papier qu'elle va être pratiquée de la même manière à tous les moments de l'histoire et par tous les gouvernements, etc. Il se trouve que la Ve République, depuis 58 maintenant, on en a vu des pratiques différentes de la Constitution. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en matière de 49-3, c'est particulièrement intéressant de garder ça en tête. Il y a le 49-3 qui est la lettre du 49-3, qui est l'article que je vais vous lire et qu'on va discuter ensemble. Il y a l'esprit du 49-3, pourquoi il a été créé, comment il a été pensé et quelle est sa fonction dans l'équilibre des pouvoirs de la 5e. Et il y a la pratique du 49-3. Et en fait, la pratique du 49-3, bah, elle change pas mal. Ça dépend des 49-3. En fait, il n'y a pas un 49-3 dans l'histoire, il y a des 49-3. Il y a des raisons d'utiliser le 49-3, il y a des méthodes d'utilisation du 49-3, il y a des contextes d'utilisation du 49-3, il y a des conséquences du 49-3 qui varient selon les usages qui en sont faits. Et donc, quand on parle du 49-3, il faut qu'on examine de quel 49-3 on parle pour pouvoir en faire une analyse à la hauteur de la qualité des analyses de Jean Massier sur Twitch. Et en l'occurrence, le 49-3 d'Elisabeth Borne, là, il est particulier. Comme tous les autres. Comme beaucoup d'autres. Parce qu'il y en a plusieurs. Le 49-3 a été utilisé à plusieurs reprises sous la 5e République, oui, dans des contextes à chaque fois différents, par des gouvernements différents, dans des contextes politiques et institutionnels différents. Et il faut les examiner, précisément. J'ai entendu dire que les députés avaient une limite de motion de censure qu'ils pouvaient signer. Bah, je crois que tu peux pas signer plus d'une motion de censure. Hein. Je crois. Pourquoi les parlementaires ont le droit de s'abstenir sur des textes aussi importants? Les parlementaires ont toujours le droit de s'abstenir. Il n'y a pas de vote obligatoire, le mandat impératif n'existe pas. Les parlementaires n'ont jamais l'obligation de se prononcer s'ils estiment que la méthode ne leur convient pas et qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer. S'ils rejettent le principe même de la délibération, ils ne sont pas obligés d'y participer. C'est très important de préserver ce droit. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu le 49-3 pour un budget? C'est une bonne question. Raffarin, c'était pour l'énergie. Juppé, non. Ça devait être Rocard. Est-ce qu'il y a un nombre limité de fois où le gouvernement peut utiliser le 49-3? Ouais. Ouais, le 49-3 peut être utilisé par le gouvernement quand il le veut sur les textes financiers, sur les textes budgétaires. Loi de financement de la Sécu et loi de règlement. Non, loi de règlement, j'ai un doute, mais surtout budget rectificatif, c'est ça que je voulais dire. Et en plus de ça, donc ça c'est quand il veut, et en plus de ces textes-là, le gouvernement a la possibilité d'utiliser le 49-3 sur un texte par session. Et la session ordinaire, c'est l'année scolaire. Donc c'est pour ça que moi, parfois, je vulgarise en disant 1,49,3 par an. En réalité, il va falloir que je sois un peu plus précis dans les années qui viennent parce que ça va devenir important de dire qu'en fait, c'est par session et que donc, en cas de session extraordinaire, il y aura un nouveau 49,3 possible. Véran a déjà annoncé que le gouvernement utilisera également le 49.3 pour le budget de la Sécu si nécessaire. Oui, c'est pas étonnant. Non, non, mais c'est pas étonnant. Ça, c'est oui. Mais oui, on s'y attend. Qui colle une session extraordinaire? C'est le président de la République. En général, en accord avec le gouvernement. Donc, pas mal de sessions extraordinaires à l'horizon. En fait, les sessions extraordinaires, il peut y en avoir que une ou deux par an quand il réfléchit. Parce qu'en dehors des sessions ordinaires, session extraordinaire, c'est en juillet. Et en septembre, quoi. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui empêche le gouvernement de troller en utilisant les sessions extraordinaires? Non. Est-ce que c'est possible que la limite de l'utilisation du 49.3 change? Faudrait changer la Constitution. Donc est-ce que c'est possible, comme d'habitude, la réponse est toujours oui, parce que tout est possible. Est-ce que ça a des chances de changer? Non. Il me semble que si c'est utilisé en première lecture que le Sénat amende, le gouvernement peut réutiliser quand ça revient devant l'Assemblée nationale. Absolument. Alors ça, c'est la question de la comptabilité des 49.3. Pour moi, c'est un faux débat, on s'en fout un peu, mais whatever. Effectivement, le 49.3 est un outil qui est utilisable à l'occasion d'une lecture d'un texte à l'Assemblée nationale et seulement à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que s'il y a plusieurs lectures du même texte à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la navette parlementaire, il peut y avoir plusieurs 49.3 utilisés pour un même texte. Mais en termes de comptabilité, je trouve que ça embrouille beaucoup l'esprit, donc c'est pour ça que je parle le 49.3 de la loi travail, le 49.3 de la loi Macron, parce que c'est plus simple de le dire comme ça, parce que c'est un texte qui a fait l'objet d'un 49.3. Il se trouve que le 49.3 a été déclenché à deux reprises parce que c'est le même texte, mais enfin, vous voyez, pour pas vous embrouiller, on va dire le 49.3, mais tu as raison pour être précis, 49.3, et c'est d'ailleurs normal qu'à partir du moment où le 49.3 est utilisé en première lecture, il soit utilisé en deuxième lecture, c'est cohérent, c'est pas absurde. Combien de 49.3 ont été utilisés depuis sa création? Cinquantaine, une soixantaine? Un truc comme ça? Je comprends pas bien combien de fois ils peuvent utiliser le 49.3, genre le PLF et le PLFSS, ça fait deux lois, donc je comprends pas. Ça fait deux lois budgétaires! Budgétaires! Attention! Budgétaires, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que je vous dis, attention, faites la différence. Sur les textes budgétaires, le 49.3 est utilisable quand ils le veulent. Autant de fois qu'ils le veulent. Si le gouvernement fait 4 budgets rectificatifs dans l'année, comme c'était le cas pendant le Covid en 2020, il peut utiliser 4 fois le 49.3. Hein. Il n'y a aucun problème. En revanche, c'est sur les textes non budgétaires, donc tous les autres textes en fait, que là, il n'y a qu'un seul 49.3 par session. Est-il envisageable que la majorité soit à l'initiative d'une motion de censure pour se débarrasser d'un gouvernement qui ne fait plus consensus? Ou alors existe-t-il d'autres moyens pour la majorité parlementaire de changer de gouvernement? Oui, non, 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 il n'y a pas besoin de faire une motion de censure quand tu as la majorité pour changer exécutif si tu as un problème avec lui, parce que tu es la majorité. Je reviens à ce que je vous disais sur le fait majoritaire et sur le principe parlementaire, c'est que le gouvernement obéit à la majorité. Dans l'esprit de la Constitution, le gouvernement est soumis à sa majorité. Et c'est la majorité qui décide. Si la majorité n'est pas contente envers un ministre ou deux ministres ou un premier ministre, etc., la majorité fait passer le message très facilement à l'Élysée en disant « Vous nous changez ce merdier. Bon, » Voilà, on veut plus... En fait, c'est la majorité qui décide de c'est qui le patron. Dans l'esprit d'un texte, d'un fonctionnement parlementaire. Il se trouve que, pour des raisons de parlementarisme rationalisé et de fait majoritaire, la Ve République fait que c'est surtout à l'Élysée qu'est le pouvoir. Mais dans l'idée, non, c'est la majorité est mécontente, le ministre dégage. Hein. Et donc ils n'ont pas besoin, non, non, ils n'ont pas besoin de déposer une motion de censure. Merci Dux Lucis pour ton prime. Est-ce que l'utilisation du 49.3 pour le budget, ça compte aussi comme une utilisation pour session? Non, non, non. Non, 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 non. La majorité a décidé de ne pas décider plus fort que de ne pas décider plus fort que le chef Macron. Oui, mais ça c'est cohérence parce qu'ils sont d'accord les uns avec les autres. C'est normal. La majorité est d'accord avec Emmanuel Macron. Donc Macron et la Majo sont d'accord pour dire que c'est Elisabeth Borne la première ministre, que son gouvernement est le bon, etc. Ça peut ne pas toujours être le cas. Pourquoi les Républicains ne voteront pas les motions de censure ? Si c'est pour suivre le gouvernement sur ça, autant fusionner, sinon leurs électeurs voteront juste LREM. C'est plus compliqué que ça. Justement, les Républicains, ils refusent le caractère binaire du truc. Et puis surtout, les Républicains, c'est vraiment des gaullistes à la papa, quoi. Ils ont, enfin, dans la philosophie de leur parti, ils ne souhaitent pas risquer une dissolution. En fait, ce qui se passe, c'est que les Républicains sont probablement en désaccord avec le budget, mais ils sont encore plus en désaccord avec la dissolution. Donc, ils voteront pas le budget, mais ils voteront pas non plus les motions de censure. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre la motion de censure de la NUPES et celle du RN ? Bah, on va lire celle de la NUPES, celle du RN, je ne sais pas si elle a déjà été déposée, si on connaît déjà le texte, je vais vérifier. Loi budgétaire égale utilisation infinie du 49.3, loi non budgétaire égale une utilisation par session. J'ai bon ? Oui, tu as bon. Tu as bon, GG, bravo. Tu l'as. Regardez, on va lire exactement la Constitution, vous allez voir comment c'est écrit, c'est très mal écrit. Alors ça, vraiment, ça, le législateur, le constituant, oh, quand il écrit mal, il est chiant, il m'énerve à chaque fois, il nous fait des articles, pff, personne bite rien, d'écrire avec les pieds la Constitution, ça m'énerve. C'est pour ça que c'est un donation goal is even de vous faire la Constitution simplifiée. Article 49 de la Constitution, ok ? Premier alinéa, deuxième alinéa, troisième alinéa, quatrième alinéa, ok ? Là, ce qui nous intéresse, c'est le 49, alinéa 3. Donc, on va lire le troisième alinéa de la Constitution. Bravo ! De l'article 49. La réforme des retraites sur une loi de finances. Non, la réforme des retraites n'est pas une loi de finances, n'est pas une loi budgétaire. Le Premier ministre peut... Il n'est pas obligé de le faire, mais il a la possibilité de le faire. Après délibération au Conseil des ministres, ça, on s'en branle. Engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Engager la responsabilité, ça veut dire demander à l'Assemblée nationale si elle soutient le gouvernement, ou pour être plus précis, lui demander si elle souhaite renvoyer le gouvernement. Ce qui n'est pas tout à fait la même question. Et ça va avoir son importance. Donc le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Jusque-là, rien de plus que ce que vous avez entendu dans les streams de Jean Massier. Dans ce cas, si le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et la sécurité sociale, le projet est considéré comme adopté. Ah ouais ? Comme ça, genre il suffit que le Premier ministre prononce une phrase pour que le projet soit considéré comme adopté. Oui, sauf, et tout est dans le sauf, si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Alinéa précédent, les signataires de plus de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire, c'est votre favorable, machin... Voilà, 48 heures après son dépôt, tout ça. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. Donc quand je vous dis que la Constitution est mal écrite, c'est que si on avait demandé à Bibi d'écrire la Constitution, évidemment on l'a pas fait. Évidemment, quand il s'agit de demander aux gens qui savent bosser, Bibi, il aurait écrit « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi ou une proposition de loi par session. » Point. En outre, le Premier ministre peut... peut recourir à cette procédure pour tous les projets de loi budgétaires. Ça aurait été plus simple, les gens sur Twitch auraient compris, mais voilà, il se trouve que les mecs, ils ont décidé d'écrire ça avec les pieds. M'énerve ça. Parce que Bibi, il fait ce qu'il peut avec sa petite mousse. Qu'est-ce qu'il en est du Sénat suite au 49-3? On s'en fout. Le Sénat, il n'y a pas de 49-3 au Sénat. Le Sénat va faire son travail, examiner le projet de loi de finances, l'amender très probablement, et ça va repartir à l'Assemblée. Session, ça veut dire année. Va falloir être précis. Moi, je dis souvent qu'une session parlementaire, en gros, c'est l'année scolaire. En réalité, il faut être un peu plus précis que ça. La session, c'est la durée calendaire pendant laquelle le Parlement travaille. Que cette durée, c'est normalement de octobre à fin juin. Mais en réalité, dans les faits, il y a aussi la possibilité d'avoir des sessions extraordinaires pendant la période entre les deux, la période de vacances, l'été, quoi. L'été, on peut avoir des sessions extraordinaires, soit après la fin de la session ordinaire, donc en gros le mois de juillet, soit avant la session ordinaire, c'est-à-dire en général le mois de septembre. Je dis en général parce que parfois il n'y en a pas, ça peut arriver, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, comme disait l'autre. Donc voilà. Du coup, impossible de remettre le 49-3 sur la réforme des retraites avant un an. Si, 49-3 utilisable pour la réforme des retraites qui va arriver en discussion en janvier. Mais par contre, une fois que le 49-3, si jamais le 49-3 est utilisé pour la réforme des retraites, une fois qu'il aura été utilisé, il n'y aura plus de 49-3 possible avant la fin du mois de juin. Oh, Nérou, merci pour ton Prime. Tu connais Amazon Prime, donc. Formidable, merci beaucoup. Merci, Charna, pour ton resub. Merci, les autres, pour vos resubs. Pourquoi ? Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir de réutilisation du 49-3 après la réforme des retraites, si jamais il est utilisé pour la réforme des retraites ? Regarde, c'est écrit ici. Le Premier ministre peut recourir à cette procédure pour un autre. Un. Voilà. C'est beau le droit constitutionnel. Hein. Si la motion de censure est votée et que le gouvernement change, celui-ci peut-il tenter son 49-3 aussi ou le gouvernement d'avant lui a cramé? C'est une bonne question. Je vous remercie de me la poser, monsieur Alcabache. Vous savez, je tiens à dire... Non, je déconne. Ça, c'est ce qu'on dit quand on n'a pas de réponse. J'ai pas de réponse, c'est une bonne question. Mettons qu'Elisabeth Borne utilise le 49-3 pour la réforme des retraites... que ça passe. Imaginons qu'Emmanuel Macron change de gouvernement au mois de mars. Est-ce que le gouvernement suivant peut utiliser un 49-3 avant la fin de la session ? Moi, je dirais non, parce que je colle à la lettre de la Constitution. Mais on a déjà vu le Conseil constitutionnel faire preuve d'originalité interprétative. Est-ce que Macron peut garder le même gouvernement pendant tout le mandat ? Oui. Ah oui. La question de savoir si Macron garde le gouvernement ou pas ne dépend pas tant d'Emmanuel Macron que de l'Assemblée nationale. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est ça le plus important à percuter dans le fonctionnement de la 5ème République. Le jour où vous aurez compris le fait majoritaire, vous aurez compris la 5ème République. Si le gouvernement convient à l'Assemblée nationale, à la majorité, il n'y a pas de raison qu'il change. Nicolas Sarkozy a gardé le même Premier ministre pendant 5 ans. Il y a eu quelques remaniements par-ci par-là, mais c'était le même Premier ministre. Il avait une majo, ça roulait, les gens étaient contents, ça roule. Merci Melcibillon pour ton prime. Le même collaborateur, pardon, c'est vrai, le même collaborateur. Villepin. Non, c'est pas Villepin, c'était Fillon. François Fillon était Premier ministre pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Dominique de Villepin, c'était avant ça, c'était sous Chirac, c'était avant Raffarin, c'était 2005. Quand est-ce qu'il a été nommé Raffarin ? Dès 2002, il a été nommé Raffarin ? Villepin, je veux dire, je sais plus. En cas de démission du gouvernement due à une motion de censure, peut-il reprendre le même ou juste reprendre les mêmes ou juste changer de ministère ? En fait, il ne le peut pas pour des raisons politiques. Je vais prendre une analogie pour que tu comprennes ta question. est-ce que si je suis licencié d'un travail, je peux retourner à ce même travail juste en mettant une fausse moustache? Non. Non. Tu as été viré. Non. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Tu peux pas prendre pour un con l'Assemblée nationale. Les mecs, ils vont revoir arriver le même gouvernement, ils vont dire, bah, le président a pas compris. Macron est audacieux, il peut oser. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ok, faisons de la politique fiction. Qu'est-ce qui se passe si un gouvernement renvoyé est renommé? Avec l'Assemblée nationale, elle va changer d'avis? Croyez qu'ils vont se dire, ah ouais, c'est mieux comme ça. Vous savez, c'est comme les chats qui miaulent devant la gamelle en disant qu'il n'y a plus de croquettes dedans. T'as juste à secouer un peu la gamelle et le chat il fait, ah c'est cool, il y a à manger, maintenant je peux manger. Bon, bah l'Assemblée nationale n'est pas aussi conne qu'un chat. L'Assemblée nationale, tu lui ressors le même gouvernement. Elle te dit, bah t'as pas compris le message. On a dit non. Non, c'est non. Donc on va revoter une motion de censure, espèce de con. Et on va pas jouer à ce petit jeu-là très longtemps. Hein. Après, il y a un blocage si le président veut pas changer. Non, il y a pas de, en fait, il n'y a pas de blocage possible. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'y a pas de blocage possible puisque c'est l'Assemblée nationale qui décide. L'Assemblée nationale a les moyens d'imposer au gouvernement, au président de la République, un gouvernement. L'inverse n'est pas vrai. Voilà, ça c'est l'autre manière de vous l'expliquer. L'Assemblée nationale peut imposer ses vues au président de la République, le président de la République ne peut pas imposer ses vues à l'Assemblée nationale, sauf s'il a une majorité de députés qui sont d'accord avec lui. Mais s'il n'en a pas, on appelle ça une cohabitation. Après, le président peut toujours dissoudre. Oui. Oui, tu as raison, non, oui, tu as raison, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que le président de la République, il a quand même un flingue sur la tempe de l'Assemblée, c'est la dissolution. C'est une bonne manière aussi d'expliquer l'équilibre de l'Assemblée nationale et du président de la République, c'est que l'un et l'autre ont un flingue braqué sur la tempe de l'autre, prêt à tirer. Il y en a un, ça s'appelle la dissolution, le président peut dissoudre l'Assemblée, et l'autre, ça s'appelle la motion de censure. Je dégage le gouvernement. Et c'est cet équilibre de la terreur, putain, c'est horrible de le dire comme ça, c'est cet équilibre de la terreur qui fonde une partie des équilibres de la Ve République. Équilibre des pouvoirs. Ouais, en fait, c'est ça. Flingue sur la tempe, c'est l'équilibre des pouvoirs. Les pouvoirs ont un pouvoir l'un sur l'autre. Et c'est l'absence de ces pouvoirs sous la 4ème République qui était reprochée à la 4ème République, etc. Mais, donc c'est pour ça qu'on les a mis dans la 5ème. Là, je vous fais l'histoire politique très courte, mais c'est un peu l'idée. Comment l'Assemblée nationale peut imposer un gouvernement au président? À partir du moment où l'Assemblée nationale se détermine une majorité parmi ses membres. Mettons par exemple, je sais pas, encore une fois, politique fiction, on va reprendre les équilibres de l'Assemblée nationale. Hop, hop. Hop, 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 voilà. On prend les équilibres de l'Assemblée. Vous connaissez le tableau. La NUPES, la majorité relative Macron, les Républicains, le Rassemblement national. OK? Mettons que, pour je ne sais pas quelle raison, il y ait des députés macronistes, donc ont été élus en juin dernier pour soutenir la politique menée par Emmanuel Macron. Mettons que pour une raison que j'ignore, ils s'engueulent avec Emmanuel Macron, ils ne sont plus d'accord, ils en ont marre de Macron, il y a un problème grave, je ne sais pas ce qui se passe, j'en sais rien. Je sais pas, moi, Macron pète un plomb et décide de restaurer le fascisme, j'en sais rien. Bref, ça part en couille. Il peut y avoir la moitié des députés En Marche qui décident de dire trop c'est trop, nous n'en voulons plus, nous ne voulons plus d'Emmanuel Macron, nous allons créer une majorité alternative à Emmanuel Macron. Et donc, ils vont aller discuter avec leurs collègues socialistes, écologistes et communistes. Mettons même qu'ils laissent tomber la France insoumise, hein, même si la France insoumise, ils ont quand même un paquet de sièges. Ils peuvent aller les voir en leur disant, chers collègues, si on s'y met tous, on a le moyen d'être majoritaire, et donc on peut imposer un Premier ministre à Emmanuel Macron. et donc on fait un accord de gouvernement, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les motions de censure constructive. Ça existe surtout dans les démocraties parlementaires d'Europe du Nord, mais c'est l'idée, quoi. À l'inverse, politique fiction, mettons qu'Emmanuel Macron s'engueule avec une partie de ses députés en disant, nous allons faire une loi pour augmenter les salaires, limiter l'enrichissement des dirigeants d'entreprise et répartir mieux les richesses. Donc Macron devient de gauche. Il peut y avoir aussi une partie des députés En Marche qui décide de faire sécession, de dire à Macron, ce sera sans nous. Nous, on n'est pas d'accord, on va négocier avec nos collègues Les Républicains et RN, et on va les voir, on va leur dire, les amis, est-ce que ça vous dit de faire une majorité avec nous ? Et on fait un gouvernement d'union, une coalition gouvernementale, droite, extrême droite, et une partie de La République En Marche. C'est complètement de la science-fiction. Dans tous les sens du terme, c'est de la science-fiction, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça, quand je vous dis que l'Assemblée nationale peut imposer ses vues au président de la République, c'est les députés qui négocient entre eux et qui peuvent créer des motions alternatives, enfin des majorités alternatives et changer ainsi la politique du pays. Mais je rappelle que les députés, c'est nous qui les élisons, donc c'est surtout nous qui pouvons décider, nous les Français, nous les électeurs, qui pouvons décider des majorités. Ce qui s'est passé en 97, c'est exactement ça. Les députés qui ont été élus étaient une majorité de la gauche plurielle. Jacques Chirac s'est fait imposer par l'Assemblée nationale son premier ministre, qui était Lionel Jospin. Autant vous dire que Jacques Chirac n'avait aucune envie de nommer Lionel Jospin premier ministre, mais c'est pas lui qui décide, c'est l'Assemblée. Pareil avec Mitterrand en 86, se retrouve avec Chirac premier ministre. Donc voilà. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce qu'un amendement supprimé par le 49.3 peut revenir au Sénat ? Oui. Mais ça ne change rien au 49.3 suivant en deuxième lecture à l'Assemblée où ça reste le gouvernement qui a la main. Mais tu as raison, on peut imaginer un amendement supprimé, enfin non retenu dans le 49.3 à l'Assemblée en première lecture, qui est voté par le Sénat et que le gouvernement décide de mettre dans son texte en deuxième 49.3 si possible. Possible. C'est potentiellement d'ailleurs ce qui peut se passer, hein, notamment dans les négociations avec les Républicains, parce que je vous rappelle que les Républicains sont majoritaires au Sénat. Donc ça change aussi la donne. Le gouvernement, dans les négociations, Emmanuel Macron a besoin des Républicains. À l'avenir, pas que là sur le budget, etc., mais à l'avenir, de manière générale, notamment pour sa réforme des retraites, le gouvernement a besoin des Républicains. Si le Sénat, à majorité républicaine, vote des amendements qui lui sont importants, dans le cadre de son 49.3, le gouvernement serait bien intelligent, tactiquement, d'accepter ces amendements sénatoriaux pour amadouer les députés LR dans le but d'éventuellement obtenir de leur part un soutien sur la réforme des retraites. Ça peut faire partie des négos. Je vous disais dans mon stream il y a deux jours que les Républicains font monter les enchères pour le gouvernement, parce que c'est eux les faiseurs de rois. Sans les Républicains, le gouvernement n'a pas de majorité absolue. Donc si vous voulez que la réforme des retraites passe, vous avez intérêt à accepter nos amendements. Dans le cadre de la négociation, peut-être que les Républicains vont dire à Macron « Retenez nos amendements du Sénat et en échange de quoi nous soutiendrons votre réforme des retraites en janvier. » Possible. Rappelle-nous comment sont nommés les sénateurs. Ils sont élus. Les sénateurs sont élus par des élections sénatoriales qui ont lieu tous les 3 ans. Et les électeurs, ce sont les élus locaux. Notamment les maires. Les maires, les conseillers départementaux et régionaux. Passe-moi la moutarde, je te passe le jet privé. Donc voilà. En cas de censure du gouvernement, on peut imaginer des élections internes par les députés majoritaires pour choisir le Premier ministre. Des élections, non, mais des négociations, oui. C'est pas vraiment des élections, ça discute, ça négocie. En fait, un gouvernement, s'il veut avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il faut qu'il, enfin, un Premier ministre. Comment vous faites quand vous voulez être Premier ministre? En fait, c'est assez simple. Liz Truss vient de démissionner. Je sais, j'en ai rien à branler. N'hésitez jamais à lire les titres des lives avant de venir discuter dans le chat. Comment ça fonctionne? Si vous êtes Premier ministre, si vous voulez devenir Premier ministre, c'est pas le président de la République qu'il faut que vous alliez voir, en lui disant « Nomme-moi Premier ministre STP ». C'est les députés qu'il faut que vous alliez voir. Vous allez voir la majorité à l'Assemblée, quelle qu'elle soit, et vous allez discuter avec eux de la possibilité de créer un gouvernement. Et du coup, vous allez leur proposer des postes au gouvernement. Vous allez surtout leur proposer une ligne gouvernementale globale et vous allez leur proposer des postes pour essayer d'avoir une coalition qui tienne la route. En disant, il y a quelques ministères qui viennent du groupe machin, il y a quelques ministères qui viennent du groupe truc, il y a beaucoup de ministères qui viennent du gros groupe machin. Vous composez votre coalition, vous vous mettez d'accord sur un chemin de réforme, etc. avec les groupes. On est tous d'accord, c'est bon, on a la majo. Là, tu vas voir le président de la République et tu lui dis, monsieur le président, une majorité de députés est prêt à me soutenir si vous me nommez Premier ministre. Donc, Emmanuel Macron dira très certainement, monsieur, bonjour. Si je vous nomme Premier ministre, aurez-vous un vote de confiance de l'Assemblée? Et là, vous lui répondez, bah oui. Oui, je l'ai négocié, c'est bon. Les groupes, il y a une majorité de députés qui est prêt à me soutenir. Eh bien, très bien, je vous nomme Premier ministre et vous allez demander la confiance à l'Assemblée. Voilà. PTDR, t'es qui? Donc voilà. Sortez de mon bureau déjà, s'il vous plaît. Vous êtes qui? C'est super simple. Bon courage. Mais c'est exactement ce qu'a fait Lionel Jospin en 97. Lionel Jospin, il est allé voir les communistes, il est allé voir les écolos, il est allé voir les socialistes et il a négocié avec eux. Il a dit aux communistes, ok, vous êtes combien de députés? Vous êtes à peu près une vingtaine, ok, ou une trentaine à l'époque, je ne sais plus. Je vous propose de rejoindre mon gouvernement d'union de la gauche. Je vous propose de vous donner le ministère des sports, le ministère du logement et le ministère machin. Les communistes lui ont dit, oh, c'est pas assez pour nous, il faut monter un peu plus les enchères. Et oh, la négo, Jospin, il dit, bon, d'accord, alors je vous propose aussi le ministère truc, ça vous va, ou quoi, ça nous va. Il allait voir les écolos, je vous propose tel ministère, ça vous va, oui, ça nous va. Il allait voir les socialistes. Au sein même du PS, il fallait négocier en fonction des tendances du PS. Et une fois que tout le monde était d'accord à la négo, Jospin est allé voir Jacques Chirac. On cède entre copains. Non, c'est pas du copinage. Faut faire attention. Je suis pas en train de vous présenter une espèce de négociation un peu roublarde en termes de poste, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une question d'équilibre politique. Mettons par exemple que tu vas voir le groupe communiste en leur disant « Est-ce que vous soutiendrez mon gouvernement? Nous allons faire une politique de gauche. » Communistes vont te répondre, qu'est-ce qui nous garantit que la politique que vous allez mener, elle va être de gauche? Si vous voulez avoir nos votes, apportez-nous des garanties. Et les garanties, c'est quoi? Je vous propose de vous nommer à mon gouvernement, certains communistes, de manière à ce que vous puissiez siéger au Conseil des ministres le mercredi, et que donc vous puissiez entendre et discuter avec nous et participer à la délibération du gouvernement. Vous allez gouverner la France avec nous. C'est un programme de gouvernement et des équilibres suivant les forces. Exactement, c'est un programme de gouvernement avec des équilibres politiques suivant les forces. Et finalement, la composition du gouvernement n'est rien d'autre que la projection de cet équilibre des forces. Voilà. C'est à 15h qu'a lieu le débat ? Non, c'est lundi. A priori, c'est vendredi ou lundi. D'un point de vue pratique, organiser des élections suite à une dissolution, ça fout le bordel ou pas? Genre en termes d'organisation des élections. Non, ça fout pas le bordel. Ah, ça fout pas le bordel, c'est très simple. Merci C'est Beau la Vie pour ton prime, merci beaucoup. C'est pas le bordel du tout. C'est très simple. Une dissolution, ça veut dire que la session parlementaire est interrompue, ça veut dire que les partis politiques qui souhaitent présenter des candidats ont un délai de 15 jours pour déposer leur candidature dans les circonscriptions. En général, la plupart vont reconduire les députés élus, évidemment, mais aussi en présenter d'autres dans les autres. On ne sait jamais des fois que les électeurs changent d'avis, essayer de grappiller des sièges en plus. Et un mois plus tard, les Français sont invités à venir voter un dimanche dans les bureaux de vote. C'est aussi simple que ça. Ça va très vite, hein. Les conséquences politiques dans le contexte actuel peut déboucher sur un bordel total. Je vois pas en quoi la dissolution aujourd'hui créerait plus de bordel qu'une dissolution en 97, en... Enfin, tu veux, pourquoi? Pourquoi ce serait le bordel? Pourquoi plus qu'à un autre moment? Non, ce qui pourrait être le bordel, c'est si jamais, en cas de dissolution, il y a de nouvelles élections et que les Français élisent à la fois une assemblée sans majorité claire. Mais ça, c'est les Français qui décident. Hein. Souveraineté, tout ça, tout ça. C'est quoi la marque de ta fantastique chaise promo gratuite? Cette chaise, c'est une chaise Steelcase que tu peux acheter avec le code promo JEAN15 le shop en ligne de la marque Steelcase. C'est la chaise, c'est le modèle Gesture qui soutient bien mes lombaires. Les Français ont de l'humour dans les urnes. Les Français ont beaucoup d'humour. Dissolution égale risque de voir le RN monter plus haut. Alors, question de point de vue, mais c'est intéressant parce que ça fait partie des réflexions que tout le monde a en tête. Dissolution égale risque que le RN monte plus haut, c'est vrai, mais dissolution égale aussi risque que la NUPES monte plus haut. Dissolution égale aussi risque que LREM monte plus haut et est une majorité absolue. C'est les Français qui décident. Soyons sérieux, la dissolution est impossible sauf décision de Macron. Ben oui, par définition, puisque c'est un pouvoir propre du président, donc il n'y a que Emmanuel Macron qui peut décider de dissoudre. Mais la dissolution peut être imposée à Macron par le contexte politique de l'Assemblée. Sous-entendu, l'impossibilité de nommer un gouvernement majoritaire. Mettons par exemple, je reprends mon Assemblée nationale. Mettons par exemple. On en parlera après, mais ça n'arrivera probablement pas, compte tenu des discours qu'on a entendus. Mais mettons par exemple que tous les députés NUPES votent une motion de censure et que, par je ne sais pas quel miracle, la même motion de censure est également votée par le Rassemblement national et par les Républicains. OK? Il y aura plus de la moitié des députés qui décident de dissoudre l'Assemblée nationale. Pardon, de, non, non, pas de dissoudre, justement. De renvoyer le gouvernement. Elisabeth Borne présente sa démission et dégage. Ok. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit dans son bureau les représentants des groupes qui ont voté cette motion de censure. Donc il reçoit dans son bureau Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, Fabien Roussel, je sais pas qui pour les écolos, Marine Le Pen et qui pour les Républicains? Qu'est-ce qui préside le groupe LR? Je sais plus. Mathilde Panot. Oui, Mathilde Panot. Mélenchon, c'est pourtant plus le patron. C'est le patron du parti. Et Emmanuel Macron, il est pas con. Il sait très bien que c'est Jean-Luc Mélenchon qui est le candidat au poste de Premier ministre. Donc, mais bon, Mathilde Panot et Jean-Luc Mélenchon étant d'accord, on s'en fout. Ils peuvent recevoir l'un ou l'autre ou les deux. Olivier Marleix, ouais, Olivier Marleix. Bon, bref. Emmanuel Macron reçoit tous ces gens dans son bureau en disant, Mesdames et messieurs les députés, Mesdames et messieurs les partis, vous avez décidé de vous mettre d'accord pour renvoyer le gouvernement de Madame Borne, j'entends. Que me proposez-vous comme gouvernement de coalition entre vos groupes? Donc là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui se tourne, qui regarde Marine Le Pen, Marine Le Pen qui se tourne, qui regarde Jean-Luc Mélenchon. Tous les deux, ils se tournent et voient Irène Macron, ils font, Ah non, mais c'est mort, on va pas gouverner ensemble. Hein. C'est hors de question. Donc Donc là, Emmanuel Macron, il va dire d'accord. Donc vous avez tous voté la même motion de censure, mais vous n'êtes pas d'accord pour proposer une alternative commune. J'entends. Nous allons donc essayer de trouver une alternative différente pour une nouvelle. Encore une fois, une majorité. On a besoin d'une majorité. Hein. Donc Emmanuel Macron, comme c'est le chef politique de la majorité relative à l'Assemblée nationale, il va aller voir. Je sais pas. Il va aller voir la NUPES. Il va aller voir Mélenchon. Il va dire alors, je vous propose que nous fassions un gouvernement d'union LREM LFI. Mélenchon va dire, très bien, monsieur le Président, réfléchissons, que ferait ce gouvernement ? Eh bien, écoutez, discutons, qu'est-ce que vous voulez, vous ? Ben, nous, on veut le retour de l'ISF. Ah, nous, on ne souhaite pas le retour de l'ISF. Ah, ben, c'est, du coup, c'est con, il y a un point d'achoppement. Alors, on peut essayer de trouver un compromis ? Bon, il y a quoi d'autre comme sujet ? En fait, tu te rends compte qu'il y a plein de sujets sur lesquels... Non, LFI, LREM, ça n'a pas de sens politique, c'est extrêmement difficile d'imaginer une coalition qui ferait de la politique et qui ferait quoi que ce soit. Bon, donc ça marche pas. Pareil, LREM va voir le RN et les LR et dit on va essayer de faire une majorité ensemble. Ok. LREM et RN, ils vont dire bah nous souhaitons le retrait de la loi sur la PMA. LREM va dire ah non, c'est mort. C'est mort. Renaissance. Oui, c'est plus LREM, pardon, c'est Renaissance. Renaissance, ils vont dire non, c'est mort, c'est hors de question. LR, ils vont dire nous souhaitons la fin du quoi qu'il en coûte et le retour à une gestion drastique des comptes publics, la fin de l'endettement et le retour des déficits. Bref, on veut la fin du quoi qu'il en coûte et des primes Macron, etc. Les macronistes vont répondre ah non, c'est mort. Et ainsi de suite, donc ils vont se rendre compte que c'est pas possible. Tout ça pour dire que j'arrive à un point, tout ça pour essayer de vous expliquer que Emmanuel Macron serait peut-être contraint et forcé de constater l'impossibilité de créer une majorité de projets à même de former un gouvernement qui tiendrait. Et face à l'impossibilité de gouverner le pays, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il se retrouve contraint et forcé de dissoudre. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'Emmanuel Macron a le pouvoir de dissolution, donc il peut, s'il le souhaite, décider de dissoudre, mais en réalité, à l'exercice, il peut aussi être contraint et forcé de dissoudre, même s'il n'a pas envie de le faire, simplement parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Il faut demander aux Français là. Là, faut demander au patron. Il faut demander au patron ce qui... Voilà. Il peut décider de démissionner, et ça changerait quoi ? Ça ne changerait absolument rien dans l'impossibilité de trouver une majorité à l'Assemblée. La démission d'Emmanuel Macron ne changerait absolument rien aux équilibres politiques à l'Assemblée nationale. Une nouvelle présidentielle, ça changerait tout derrière. Mais non, ça ne changerait rien, justement. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça ne changerait absolument rien. Admettons, ok, d'accord, je veux bien, Emmanuel Macron décide de démissionner. Emmanuel Macron démissionne, il y a une nouvelle élection présidentielle. Il y a un nouveau président de la République qui est élu. Un nouveau président de la République qui est élu, je ne sais pas qui, peu importe, ça ne change pas grand-chose. Un nouveau président de la République est élu. Mais qu'est-ce qu'il fait, le président de la République ? Bah, il a le même problème que Macron. Bah, tu vois, le problème est toujours le même. Ça ne change pas. C'est pas parce que t'es lié à un nouveau président de la République que tu changes les équilibres à l'Assemblée. Les équilibres à l'Assemblée sont toujours les mêmes. Donc le nouveau président de la République, il arrive dans le bureau d'Emmanuel Macron. Bonjour monsieur Macron, merci, la sortie c'est par là. Bienvenue monsieur le nouveau président, installez-vous, voici mon bureau. Je vous ai laissé des stylos et des post-it dans les tiroirs, merci, c'est sympa, etc. Nouveau président, il s'assoit derrière le bureau. Bah, il a le même problème que Macron. Hein. C'est bon. Quand t'as le robinet qui fuit, tu peux changer de plombier, le robinet fuit toujours. En revanche... Ce que vous avez bien compris, c'est que si jamais il y a une nouvelle élection présidentielle et que c'est un nouveau président de la République qui gagne cette élection, le nouveau président de la République, qu'est-ce qu'il va faire ? Bah, il va dissoudre, évidemment, c'est le premier truc qu'il fait, il dissout. Il dissout. C'est cohérent de dissoudre quand tu viens d'être élu président de la République si jamais tu as une assemblée qui ne représente pas ta majorité à toi. Parce que les Français viennent de voter pour toi. Donc c'est cohérent de se dire que les Français qui viennent de t'accorder leur confiance sont susceptibles... de continuer à t'accorder leur confiance dans un mois si tu fais des élections. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le nouveau président de la République, quel qu'il soit, on s'en fout de savoir son identité politique, etc. Il arrive dans le bureau du président, il arrive fort du soutien d'une majorité d'électeurs au second tour de l'élection. Le premier truc qu'il fait, il dissout l'Assemblée nationale et il dit aux Français « Vous venez de me faire confiance, continuez votre confiance en votant dans les circonscriptions pour les députés de ma majorité, enfin les députés qui soutiennent ma politique. Et donc, élection générale, donc élection législative, et là, le nouveau président de la République, il croise très très fort les doigts comme ça dans son bureau. Il fait putain, pourvu que les Français votent pour des députés et qu'il y en ait suffisamment pour faire une majorité absolue. Et là, comme les Français ont le sens de l'humour. Quand je vous dis que les Français ont le sens de l'humour. Mettons par exemple, Macron démissionne. Élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République. Félicitations, Jean-Luc Mélenchon dissout l'Assemblée nationale, les Français vont voter pour des députés, et là, boum, il lui envoie une majorité à LREM. Ah, on rigole. Ça va, c'est rigolo. Et là, qui c'est qui est nommé Premier ministre? Un certain Emmanuel Macron. Bonjour. Vous vous souvenez, j'ai occupé votre bureau il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, du coup, je vais mettre mes cartons à Matignon. C'est pas très loin, c'est dans l'arrondissement d'à côté. Et en fait, là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est exactement ce qui s'est passé en 95 et 97. Mais vraiment, hein. Jacques Chirac est élu président de la République en 1995. Super, ciao, bye bye les socialistes. Il y en a marre de ces socialos. Ça dégage. 97 dissolution. Et qui c'est que les Français ils élisent? Des socialistes, dis donc. Et qui revoilà? Lionel Jospin, coucou. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai voulu dissoudre l'Assemblée, j'ai dissous la droite. Ouais, c'était la très très bonne phrase des guignols de l'info. Quel con, mais quel con. C'est renou. T'en avais marre des socialistes, ben on est de retour au pouvoir. Et c'est parti pour les 35 heures, la CMU, les nationalisations et tout. Oh. Non, pas nationalisation, privatisation. D'ailleurs, Monsieur le Président Chirac, je vous présente mon nouveau ministre de la formation professionnelle, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est un sénateur très sympa. Chirac aurait dû dissoudre en 95 aussi pour limiter les risques d'être dans cette situation. Ouais, mais politiquement, c'était compliqué de dissoudre en 95, sachant que les députés venaient d'être élus en 93. Un peu compliqué. Élu avec le soutien de Chirac en plus, donc. Enfin, pour une bonne partie d'entre eux. Sauf que c'est l'Assemblée qui fait la loi. Il n'y a pas de raison, au fond, que le président ait un programme politique, puisque. Qu'il n'a de fait aucun moyen d'appliquer sans assemblée. Ouais, mais c'est d'où l'intérêt du fait majoritaire sur la 5e République, enfin plutôt de l'inversion du calendrier législatif et du quinquennat, qui est que, comme on a synchronisé les élections, on se dote de la majorité, de la plus grande proportion de chances d'avoir un président avec une majorité absolue. Donc, un président à même de gouverner. C'est ça l'idée du quinquennat. Et en même temps, c'est amusant ce que je suis en train de vous dire, parce que c'était vrai jusqu'en juin dernier. C'est-à-dire que là, vous avez la preuve que le quinquennat et l'inversion du calendrier législatif, la réforme de l'an 2000, ne portent pas toujours ses fruits. Et ça qui est bien, c'est ça qui est bien avec. C'est pour ça aussi que les Français ont de l'humour, c'est qu'ils aiment beaucoup faire mentir les analystes politiques comme moi, qui disent non mais c'est sûr, c'est ça l'idée du truc, c'est évident, évidemment c'est cohérent. Les Français disent bah non tiens regarde, je vais te mettre dans une situation où c'est plus cohérent. Finalement, on a une politique institutionnelle non euclidienne. Ça pose un problème de séparation des pouvoirs, de tout faire pour que le législatif et l'exécutif s'accordent. Oui, ça pose des problèmes de confusion du pouvoir et surtout ça pose des problèmes de système politique présidentialisé à outrance. Comme ce qui est dénoncé, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre de responsables politiques qui critiquent la 5e République comme étant beaucoup trop présidentialisée, a fortiori depuis le quinquennat. C'est notamment le cas, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon qui propose une 6e République souhaitant mettre fin à cet état de fait-là. Il y a quoi comme séance à 15h à l'Assemblée? Je sais pas, moi. Ah mais non, non, c'est la séance de. C'est l'examen du PLFSS. Oh non, on s'en branle. De toute façon, il y aura un 49-3 sur le PLFSS, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment vont les députés en ce moment. Je leur ai pas passé de coup de fil pour savoir. Mais ils doivent être blasés, les députés, de se dire, mais ça sert à quoi de défendre des amendements? Vu que de toute façon, on sait qu'il y aura un 49-3 sur le PLFSS, pourquoi je me ferais chier à aller en séance défendre mon amendement, alors qu'au bout du bout, qu'il soit voté ou non mon amendement, ça change rien, c'est le gouvernement qui décide s'il le garde ou pas. Franchement, bah, les députés, je me dis, il y a des moments où ils doivent se dire, putain, oh la saoulerie. En même temps, je dis ça, mais c'est pas vrai, parce que ça a quand même du sens de défendre son amendement en séance, parce que le fait que l'amendement soit adopté lui donne d'autant plus de chances d'être conservé par le gouvernement. Même en cas de 49-3. Donc il faut défendre ses amendements. Eh les députés, vous allez défendre vos amendements. Hein. Vous arrêtez de squatter sur mon stream, là. Je sais que vous êtes un peu déprimé, mais... Allez, haut les cœurs, il est quelle heure? Il est 14h55, la séance commence dans 5 minutes. Allez, on ferme son navigateur internet, on ferme Twitch, on va dans l'hémicycle et on bosse. Nous on reste là pendant ce temps-là. On prend une dernière binouze et on y va. Oui, c'est ça. Patron, la dernière, parce que là la séance elle va reprendre là. Mets-moi un shot, mets-moi un tech paf, enfin je sais pas t'as quoi. Jager bomb, vas-y, Jager bomb, allez hop. La tournée de shot avant de reprendre la séance. Ah, j'en ai déjà vu faire ça. Hein. Je te jure, j'ai déjà vu des députés me dire, oh putain, les petits derniers avant la séance là. Allez, j'y vais. Ciao, Jean. Je retourne en séance. des noirs, je vous donnerai pas les noms. Certains doivent être bien frais. Pas tous, pas tout le temps. Ils ont open bar comme au Club Med à l'Assemblée. Ah non, ils doivent payer. Il faut proposer un projet de loi qui annule les 49-3, que ça soit plus possible, car ça confirme que la démocratie, c'est cause toujours, comme disait l'autre. Plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça. Mais un projet de loi qui annule le 49-3, ce que tu proposes, c'est une réforme de la Constitution. Et comme tu le sais, pour réformer la Constitution, il faut une majorité des 3/5 du Congrès. Et pour avoir 3/5 de Congrès, tu as besoin d'avoir le soutien des Républicains, qui sont majoritaires au Sénat. Or, les Républicains, bah, ils adorent le 49-3. 49-3, c'est le truc le plus gaulliste du monde. Ça ou un référendum. Ouais, ça ou un référendum. Mais pour déclencher un référendum, eh ben, il faut une majorité à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Bah, en même temps, oui. Et au Sénat, non, et au Sénat. Donc en fait, t'es obligé de négocier avec le Sénat. Non, alors ça c'est un vrai problème de la Ve République. Je sais que je suis le premier à expliquer que le Sénat a une utilité qui lui est spécifique, etc. Mais le Sénat est la seule institution qui ne peut pas être réformée si elle n'est pas d'accord. C'est un peu chiant à la longue. Ou alors référendum d'initiative citoyenne. Non, pas d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative partagée. Parce qu'il n'y a pas de RIC dans la Constitution pour l'instant, il y a un autre mécanisme qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Et j'ai un doute. Le référendum d'initiative partagée... Crée-t-il l'obligation d'avoir un vote dans les mêmes termes du projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale et au Sénat? Règle de mise en œuvre. Donc il faut 1/5 des membres du Parlement. Ok. Donc il faut 185 députés qui sont d'accord, plus une pétition avec 4 millions de signatures. Ça, d'accord, ça on le sait. Ouais, ça d'accord. Contrôle de constitutionnalité, mais a priori, là, ce qu'on dit, c'est pas inconstitutionnel. Recueil des soutiens. Discussion parlementaire. Si le nombre de soutiens est suffisant, la proposition de loi revient alors au Parlement, où chacune des deux assemblées doit l'examiner en l'adoptant ou en la rejetant. Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chaque assemblée dans un délai de 6 mois, le président de la République la soumet à référendum. Mais examiner, je m'en fous. Moi, je veux savoir si elle doit être adoptée par le Sénat ou pas. Sinon, l'absence de Majou à l'Assemblée nationale empêchait de faire voter le PLF PLFSS avant janvier. Le 49-3 était la seule solution viable. Je suis pas d'accord avec toi. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu reprends un des arguments de la majorité qui est pas un mauvais argument, qui est de dire c'est la faute des députés d'opposition si on utilise le 49-3 parce que ils font de l'obstruction en gros, ils ralentissent les débats avec leurs amendements à la con, etc. C'est pas forcément et contextuellement toujours une mauvaise analyse. Le truc c'est que quand tu dis qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre choix que d'utiliser le 49-3, si, il y a toujours un autre choix. Il y a toujours un autre choix qui est de négocier avec les députés. Il y a toujours une alternative possible. Et tu peux toujours te mettre d'accord avec des députés, mais il faut accepter leurs amendements pour ça. Alors je comprends que ça puisse te contrarier, mais Renaissance et LR, ils peuvent y aller seuls. Ouais, ils peuvent toujours négocier avec LR. Bon, alors LR, ils sont chiants. Hein. Putain, ils font monter le. font monter les enchères. Concernant l'IVG dans la Constitution, c'est mort. Hier, le Sénat a rejeté la proposition de loi constitutionnelle d'inscription de l'IVG dans la Constitution. En Belgique, on négocie pendant un an et demi avant de se mettre d'accord. Non, alors la Belgique a un mode de fonctionnement institutionnel différent, qui est pas comparable avec la France. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, Elisabeth Borne, si elle avait voulu ne pas utiliser le 49-3, elle aurait toujours pu négocier avec une partie de la NUPES, avec une partie des LR, et puis essayer de voir si un compromis est trouvable. Compte tenu du fait qu'elle n'a pas de majorité alternative, qu'elle n'a pas de majorité absolue et qu'elle n'a qu'une majorité relative, elle sait qu'elle a besoin du vote de quelques autres députés pour les mettre d'accord. Ça, c'est le boulot. Ça, c'est le boulot des conseillers parlementaires de Matignon. Hein. Je suis collab ensemble. Quand je vois la froideur de LFI LR dans les ascenseurs, je vois mal la Majo négocier avec les partis. Il n'y a aucune volonté de conciliation. Les oppositions veulent en découdre avec la Majo. Je suis d'accord avec toi pour LFI. Mais d'ailleurs, LFI, ils ont toujours été clairs là-dessus. Hein. C'est ce qu'avait très bien dit Adrien Quatennens en 2017 sur les ordonnances travail. Il disait à la majorité, il disait, nous ne sommes pas là pour co-construire avec vous. Nous, LFI, on va toujours s'opposer au gouvernement, quoi que vous proposiez, donc c'est pas la peine de nous proposer des conciliations et des compromis, on les acceptera jamais. Je suis d'accord avec toi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les indépendants, il y a les socialistes, il y a les écolos, il y a une partie des LR. Alors, je suis d'accord avec toi quand tu parles des LR, parce qu'encore une fois, les LR d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes que les LR d'hier, et les LR d'aujourd'hui, c'est vraiment les anti-macronistes basiques. Qui déteste Macron, etc. Donc je suis d'accord avec toi pour dire que c'est difficile. Mais c'est jamais impossible. Michel Rocard a réussi à le faire. Le contexte était différent, je suis d'accord. Il faut pas dire Saint Rocard avait la science infuse et la capacité de négociation parfaite et Macron est nul. Bon, Macron est quand même un peu nul en négociation parlementaire, on va pas se mentir. Hein. Ça a jamais été son fort. Il a jamais été parlementaire lui-même. Il est convaincu d'avoir raison. Ça aide pas beaucoup. Mais. Voilà. Est-ce que tu penses que DSK a une chance de revenir ou c'est dead? Il y a des gens qui attendent son retour? C'est déjà la première question à se poser. Hein. LFI et RN, zéro compromis possible. Est-ce que tu penses qu'une des motions va passer? Alors, non, je ne pense pas, puisque. À ma connaissance, il y a deux motions de censure qui vont être déposées. Une par la NUPES, donc qui représente à peu près 130 députés, et une autre par le RN, qui représente 89 députés, à peu près. On sait d'ores et déjà que les députés du RN ne voteront pas la motion de censure de la NUPES. Et on sait d'ores et déjà qu'un certain nombre de députés de la NUPES ne voteront pas la motion de censure du RN. Donc c'est dead aussi. On sait également, on se doute également que LR ne votera pas de motion de censure tout court. Donc c'est dead. Donc c'est triple dead. C'est double dead. Et si jamais ils te font mentir, bah à ce moment-là, on se retrouve dans la situation dont je vous parlais tout à l'heure avec Emmanuel Macron, qui se retrouve à demander à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen de se mettre d'accord pour créer un gouvernement ensemble. C'est ça la particularité que je vous disais tout à l'heure dans le voter une motion de censure. Ça dépend de la motion de censure. Parce qu'il y en a plusieurs genres, il y en a plusieurs types, etc. C'était pas tout à fait le cas en 62, c'était surtout une réaction à l'utilisation de l'article 11 de la Constitution par De Gaulle, etc. Mais voter une motion de censure, c'est être d'accord avec ce qui est écrit dans la motion, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on censure le gouvernement, l'argumentaire, c'est souhaiter le départ du gouvernement, et c'est aussi se placer comme un député à même de soutenir une majorité alternative issue du vote de cette motion. Pour être plus précis, c'est se placer comme député d'une future majorité qui soutiendra le gouvernement issu des dépositaires de cette motion. Et c'est là que ça coince. Je me demande dans quelle mesure c'est 100% impossible qu'une motion de censure soit votée. Ce n'est jamais 100% impossible. Ce n'est jamais 100% impossible. Alors, il y a une quatrième possibilité, tu peux voter une motion de censure parce que tu souhaites une dissolution. Et là, vous avez la raison pour laquelle LR ne votera pas de motion de censure. LR ne veut pas de dissolution. Ils peuvent pas juste voter la motion de censure par opportunité pour dissolution. Mais ça dépend. Encore une fois, chaque député vote pour les raisons qui sont les siennes. Chaque député met plus ou moins d'importance aux différents points que je vous ai donnés. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des députés qui sont prêts à tout pour que le gouvernement dégage. Il y a des députés LFI qui sont prêts à voter avec le RN. Pour la première fois de l'histoire de la gauche, en un siècle et demi, il y a des députés LFI qui sont prêts à voter un texte de l'extrême droite parce que ça leur apporterait la garantie, le pense-t-il, d'obtenir le départ du gouvernement. Il y a des députés qui, jamais de leur vie, ne voteront un texte de l'extrême droite. Et qui l'ont dit, et qui le répètent, et c'est mort, c'est hors de question, on le fera jamais, plutôt crever, j'ai pas été élu pour ça. Voilà. Quitte. Donc il y a des gens qui ne voteront jamais de texte issu de l'extrême droite à la NUPES, quitte à ce que ça provoque le maintien au pouvoir d'Elisabeth Borne. Et ben, de l'un à l'autre, non, une question de choix. Et il y en a qui disent ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, les députés sont différents les uns des autres. Hein. Le vote est à bulletin secret ? Non. Pourquoi LR ne veut pas de dissolution ? Parce que s'il y a une dissolution, LR, ils sont sûrs de perdre le peu de députés qu'ils ont. Tu balances des textes sur LFI, tu as des sources. Et bah, il y a des députés qui ont dit nous voterons la motion de censure d'où qu'elle vienne. Il y a les députés LFI au cours du quinquennat précédent ont voté une motion de censure des Républicains. C'est pas l'extrême droite, hein, mais voilà, c'était François Ruffin qui était monté à la tribune pour expliquer pourquoi les insoumis assumaient de voter un texte de droite, etc. Voilà. À quelle heure le vote ? Ce sera lundi, a priori, le vote. Et c'est pareil du côté des RN. C'est pareil du côté des RN. Marine Le Pen a un peu changé d'avis. Marine Le Pen, il y a quelques semaines, avait déclaré... nous, les députés RN, voterons les motions de censure d'où qu'elles viennent. Donc Marine Le Pen avait dit en gros que le RN, les députés RN apporteraient leur voix, à, y compris à la motion de censure de la NUPES. Bon, ça avait gueulé un peu en interne quand même, parce qu'il y a des députés du RN qui avaient dit « Attends, on va pas voter avec les bolcheviques ». C'était à peu près ça. Hein. Et Marine Le Pen avait rétropédalé la semaine dernière, dans une matinale de radio, je sais plus quelle radio, elle avait dit « Non, j'ai pas dit ça, vous avez mal compris ». Elle avait dit les députés RN sont prêts à voter une motion de censure avec de la NUPES en cas d'utilisation d'un amendement au PLFSS pour faire passer la réforme des retraites. Mais pour ce qui est de 49.3 sur le projet de loi de finances, nous ne voterons que notre propre motion de censure. Sous-entendu, nous, députés RN, ne voterons pas la motion de censure de la NUPES. Donc, pareil, question de priorité. Les députés RN souhaitent le départ d'Elisabeth Borne. Mais si le prix à payer pour ça, c'est de voter un texte de la gauche, plutôt crever. Donc plutôt Borne que voter avec Mélenchon. En gros, c'est un peu ça l'équilibre. Ils sont un peu cons, non? Bah oui, puisqu'ils pensent pas de la même manière que toi. Hé hey ! Évident ! Plutôt Macron que Coco. Oui, c'est ça. En gros, ils sont incapables de réfléchir plus loin que leur camp, c'est ridicule. Non, enfin, je comprends pourquoi tu dis ça et je te dis pas que t'as tort. Parce que là on rentre dans le truc où c'est une question d'opinion. Le jugement qu'on porte, moi je vous explique leur réflexion et quelle est leur tactique à tous ces députés là, et les raisons pour lesquelles ils prennent des décisions et les débats qu'ils ont en interne. Il ne s'agit pas tant de protéger son camp que de réfléchir au sens de ton vote. Et en l'occurrence, voilà, il y a des députés qui mettent un sens à leur vote qui est différent des autres. En théorie, un gouvernement mixte, NUPES-RN, formé après une motion de censure, pourrait fonctionner sans s'entendre. Chaque ministère ferait ses petites affaires dans son coin. Malheureusement, nous ne vivons pas dans le monde de la théorie, donc non, c'est pas possible. Un gouvernement mène une politique, a une cohérence politique, et tu peux pas avoir des ministères qui votent et qui mènent des politiques différentes les unes des autres. Tu peux pas avoir un ministre du budget qui mène une politique de gauche et un ministre de l'éducation nationale qui mène une politique d'extrême droite. Ça n'a pas de sens, en fait. C'est qu'il y a un moment où tu... Non. C'est pas possible. Ou alors, si ça existe dans certains pays, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les gouvernements des gouvernements d'union nationale plus ou moins, mais des gouvernements complètement sclérosés qui ne font rien, ça arrive. Hein. Gouvernements qui ne font rien. Il y a des pays qui sont totalement bloqués, avec un gouvernement fantoche sans pouvoir, pour le simple fait que aucune cohérence au sein du gouvernement. Donc en général, c'est le gouvernement qui expédie les affaires courantes, mais il n'y a pas une seule réforme qui est votée. Quoi. En général, c'est des gouvernements pour attendre les élections. Quoi. Ambiance au Conseil des ministres, ah, putain, t'imagines. T'imagines? T'imagines le Conseil des ministres? Merci Madame Panot, nous avons bien entendu votre proposition de décret pour faciliter l'accès à l'IVG pour les jeunes filles. Nous allons maintenant passer la parole à Madame Le Pen qui va nous expliquer son projet de décret pour interdire, pour renvoyer les musulmans dans leur pays. On fait tourner la parole. Non, attendez, non, chacun a la parole. Arrêtez de gueuler. On est neutre. On a un gouvernement neutre. On a un gouvernement pragmatique. Non, ça n'a pas. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Et encore, là, je vous prends des exemples un peu caricaturaux pour rigoler, mais juste les arbitrages budgétaires n'auraient aucun sens. Mais vraiment aucun sens, quoi. Gouvernement apolitique. Ouais. Non, parce que moi j'ai bossé pour un gouvernement, c'est-à-dire déjà qu'au sein même d'un gouvernement du même parti, T'as des engueulades matin, midi et soir entre tous les ministères sur des arbitrages à Matignon en réunion interministérielle, etc. Mais alors, putain, mais t'imagines. La réunion interministérielle. Donc une rime, hein, je rappelle, une réunion interministérielle, c'est une réunion à Matignon sous l'égide du Premier ministre dans laquelle on met les collaborateurs des ministres et les fonctionnaires de deux ministères qui s'engueulent. Généralement, c'est le ministère du budget avec tous les autres ministères, c'est normal. On discute des moyens, du pognon et tout. Et sous l'égide de Matignon, les deux ministères présentent leurs arguments et ensuite il y a une note d'arbitrage qui part à Matignon et c'est le Premier ministre qui tranche et qui arbitre entre les deux ministères. T'imagines les collaborateurs du RN et les collaborateurs de LFI dans la même salle, ils doivent présenter leurs arguments. Ok, non, on va pas y arriver les gars, c'est pas possible. En attendant, c'est le Sénat qui vote contre l'IVG. Dans la Constitution, LR est centriste. Ouais, effectivement, c'est la majorité sénatoriale hier qui a voté contre la proposition de loi constitutionnelle d'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sans trop de surprise, on savait que LR ne souhaitait pas l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Enfin, ça dépend qui chez LR. Attends, ça dépend qui chez LR, mais bon, il n'y a pas trop de surprise au Sénat. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas tous d'accord? Telle est la question. Telle est la question. Et c'est une bonne question. Finalement, comme disait Hubert Bonisseur de Labatte, les Juifs et les nazis ne pourraient-ils pas se réconcilier? Ces deux grands peuples ne pourraient-ils pas vivre en harmonie? Trouver un compromis. Vous vous souvenez de cette citation? Je sais plus dans quel OSS 117 c'est. Bah non, si, c'est dans le Rio ne répond plus. Mais oui. On en est où de la motion de censure? Alors, moi j'ai vu un tweet passer hier de la part de Clémence Guettet, qui est une députée LFI, qui présente la motion de censure de la NUPES. On va la lire. Pouf. Pouf, pouf, pouf. Pif, paf, pouf. Boum. Donc, Clémence Guettet, après l'annonce du 49.3 sur le budget, nous avons déposé une motion de censure contre la politique du gouvernement avec toute la NUPES. Nous refusons que l'injustice budgétaire soit imposée au peuple par cet outil antidémocratique. Hashtag motion de censure. Quel est donc le texte de cette motion de censure de la NUPES, tweetée par Clémence Guettet? Alors, donc motion de censure, je vous rappelle, c'est un texte, il n'y a pas vraiment d'obligation formelle, ça peut être une page, deux pages, trois pages, ça peut être écrit en police 12, 13, ça peut être en Calibri, ça peut être en Times New Roman, on s'en branle. Motion de censure, portée par les quatre groupes de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, Insoumis, Communistes, Écologistes et Socialistes, les quatre groupes de la NUPES, qui se sont mis d'accord sur ce texte. Le gouvernement, nommé par le président de la République, Emmanuel Macron, fait le choix de déclencher l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le projet de loi de finances pour 2023. L'usage de cet outil dès l'ouverture de la première session ordinaire de la 6e législature démontre, de la 6e, de la 16e, on s'en branle, démontre une nouvelle fois la volonté du gouvernement de se soustraire au vote de l'Assemblée. Pourquoi une nouvelle fois Clémence Guettet, la motion de censure de la NUPES fait référence au refus d'Elisabeth Borne de solliciter un vote de confiance en juillet dernier après sa nomination. Le recours au 49.3 atteste ainsi de la fragilité politique du gouvernement, c'est vrai, illustre le mépris pour la représentation nationale et confirme l'impasse de l'exécutif. Fragilité déjà avérée dès le discours de politique générale et au refus de la Première ministre d'engager sa responsabilité au titre de l'article 49 alinéa 1 de la Constitution. Ça, c'est la version compliquée pour dire ce que j'ai dit de manière plus simple, c'est-à-dire le refus d'Elisabeth Borne de solliciter un vote de confiance en juillet dernier. Fragilité corroborée par le rejet en juillet dernier par le Parlement du projet de loi de règlement du budget et l'approbation des comptes publics. C'est juste. Si on était taquin, on répondrait que le Parlement a quand même adopté le projet de loi de pouvoir d'achat et le projet de loi de finances rectificatives. Certes, pas le projet de loi de règlement, mais Mais fragilité quand même sur ce point-là, elle a raison. Ils ont raison, pardon. Fragilité confirmée par l'ampleur des mobilisations sociales lors desquelles les salariés réclament à juste titre des hausses de salaire. Ils font sans doute référence à la manifestation de dimanche dernier, à l'initiative des partis de la NUPES. Donc ça, c'était fragilité. Mépris, car il illustre le refus du gouvernement d'être à l'écoute des oppositions, contrairement à sa volonté affichée de recherche de compromis et malgré son échec à convaincre la représentation nationale sur les premiers textes posant la trajectoire de financement des politiques publiques pour les années à venir. Donc ça, c'est ce que je vous disais sur le mépris du Parlement. Le gouvernement pourrait faire l'effort d'essayer de négocier, mais visiblement, d'après les députés de la NUPES, il ne le fait pas suffisamment. Mépris, car le gouvernement, avec ce recours au 49-3, balaie d'un revers de la main les débats parlementaires qui ont déjà eu lieu et permis l'adoption, contre son avis, d'amendements importants comme ceux sur la taxe sur les superdividendes, sur l'exit tax ou l'accessibilité financière des EHPAD pour tous. C'est un fait sans précédent. Donc ça, je reviens sur le fait que le gouvernement, en utilisant le 49-3, a la possibilité de ne retenir que les amendements qu'il souhaite, lui, le gouvernement, dans le projet de loi soumis à 49-3, et il peut balayer les amendements, y compris ceux qui ont été votés. Donc effectivement, là, je reprends l'argument de mépris du Parlement qui réside dans le fait que bah, là, l'Assemblée nationale s'est prononcée. Certes, vous n'étiez pas d'accord, mais il s'est prononcé à majorité. Il y a un peu un principe de souveraineté de l'Assemblée. Et là, vous méprisez cette souveraineté en disant bah, « l'amendement que vous avez voté, mesdames et messieurs les députés, je me le carre au cul ». Effectivement, c'est un peu méprisant. Impasse, enfin, car ce recours au 49-3 atteste de l'impuissance du gouvernement à répondre aux enjeux prioritaires du pays en proposant un horizon de justice sociale et écologique à notre peuple. Ok. Ça, j'ai du mal à imaginer les députés RN voter un texte où il y a écrit ça, mais on ne sait jamais. Impasse face au dérèglement climatique. L'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution a pour objectif de soustraire au vote démocratique une loi de finances marquée par l'irresponsabilité climatique. Ce projet de loi de finances ne contient aucune mesure d'ampleur pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Impasse face à la crise énergétique. L'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution intervient alors qu'une crise énergétique de grande ampleur frappe les Français et les Françaises. Ce bouclier devrait garantir la satisfaction des besoins vitaux de l'ensemble des ménages et notamment des plus modestes sans subventionner l'ébriété énergétique. Il n'est pas très bien écrit, si je puis me permettre, hein, les copains de la NUPES, il n'est pas très bien écrit cet alinéa parce que vous dites ce bouclier, mais bon, visiblement, le texte a été réécrit, et du coup, il y a eu des allers-retours, ils ont suivi une modification, et je sais pas, ils ont dû supprimer une phrase là qui parlait de la nécessité d'un bouclier pour protéger les Français. L'utilisation de l'article 49.3, alors qu'une crise énergétique de grande ampleur frappe les Françaises et les Français, rendant nécessaire la création d'un bouclier, point. Ce bouclier devrait garantir la satisfaction des besoins vitaux de l'ensemble des ménages, et notamment les plus modestes, sans subventionner l'ébriété énergétique. J'en sais rien, je sais pas. Whatever. Alors, l'ébriété énergétique, pardon, c'est quoi ? L'ébriété énergétique, c'est une phrase que vous allez sans doute entendre souvent de la part des députés de la NUPES. Ça désigne l'inverse de la sobriété. C'est l'usage effréné des ressources énergétiques, notamment par les plus riches, par exemple jet privé, voiture qui consomme énormément pour le loisir, etc. Salut David. Donc c'est ça la notion d'ébriété énergétique, la subvention à l'ébriété énergétique, c'est la subvention par exemple dénoncée par la NUPES, le soutien direct ou indirect des énergies fossiles par le gouvernement. Ouais, l'ébriété, c'est le fait que Total continue à faire des forages pétroliers, de gaz, etc. machin. Vous voyez ? Donc c'est l'inverse de la sobriété, quoi. J'aurais préféré l'ivresse. L'ivresse énergétique. Non, l'ivresse, il y a une notion de joie. Je vois ce que tu veux dire. Mais non, je préfère la notion d'ébriété. Vous êtes en état d'ébriété. Non, notre planète est en état d'ébriété. On se saoule la gueule au pétrole et c'est un problème. Attention à la gueule de bois. Pardon, je continue. Impasse face à l'inflation et la crise du pouvoir d'achat pour les Français. L'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution intervient alors que les Françaises et les Français subissent une inflation record et se voient dans l'obligation de restreindre leurs dépenses, y compris les plus essentielles. Le projet de loi de finances est une nouvelle opportunité manquée d'augmenter le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Évidemment, vous en doutez, puisque vous suivez ma chaîne, il y a un débat éternel entre le gouvernement et les oppositions pour savoir qui défend le mieux le pouvoir d'achat des Français. La question des primes Macron, la question du bouclier tarifaire, etc. Sujet extrêmement intéressant, mais en tout cas, les députés de la NUPES, ça, c'est pas nouveau, et on le sait déjà, critiquent cet axe-là aussi, la politique du gouvernement, qui, selon eux, ne soutient pas suffisamment le pouvoir d'achat. C'est pas compliqué, les députés de la NUPES proposaient d'augmenter le SMIC, et les députés, la majorité et le gouvernement ont refusé. Voilà. Ils lui préfèrent d'autres types de mécanismes pour soutenir le pouvoir d'achat. Bref. Impasse face aux difficultés des collectivités locales. L'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution intervient alors que l'ensemble des collectivités territoriales se débattent pour continuer à garantir à leurs habitants et habitantes des services publics de proximité. La suppression injustifiée de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, fragilise leur autonomie financière pour profiter principalement aux grandes entreprises. Ça aussi, ça faisait partie des débats sur les amendements dans le cadre du projet de loi de finances. L'aide aux collectivités locales qui sont dans la merde parce qu'ils perdent leur autonomie financière à force de suppression et de manque de compensation juste des impôts locaux et la suppression de la CVAE. On en a beaucoup parlé cette semaine, donc pas étonnant qu'ils l'aient mise dans leur motion de censure. Impasse face à l'accroissement des inégalités. L'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution intervient alors que l'aggravation des inégalités n'a jamais été aussi nette, rendant indispensable la remise en cause du partage actuel de la richesse. Ce 49.3, acte de brutalité antidémocratique, déni du parlementarisme, provocation à l'égard des citoyennes et citoyens représentés par les élus de la nation, nous conduit à demander la censure du gouvernement. Point. Fin du texte. Voilà donc une motion de censure en deux pages. C'est pas la mieux écrite que j'ai vue. C'est pas très grave. On s'en branle un peu. Hein. Mais, ouais, je sais pas. Bon, whatever. Vous avez compris. Vous avez compris le principe d'une motion de censure. Donc ça, c'est la motion de censure déposée par la NUPES. Et donc, quand elle sera soumise au vote, elle sera examinée en séance publique. Elle sera streamée en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. D'ailleurs, ils ne l'ont pas écrit dans la motion alors que je leur avais dit de le faire, mais ce sera streamé. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et au moment de la soumettre au vote, on sait d'ores et déjà que les députés de la NUPES la voteront. C'est quand les motions de censure seront examinées soit vendredi, soit lundi. Ça m'arrangerait que ce soit lundi. D'ailleurs, je vais envoyer un texto à Elisabeth Borne pour lui dire, à titre très personnel, compte tenu de la nécessité des engagements de transparence de la vie publique de ton gouvernement, virgule, pourrais-tu faire en sorte, STP, que je puisse streamer dans de bonnes conditions l'examen des motions de censure de ton gouvernement, entre parenthèses, désolé, j'espère que ça va pour toi, fin de parenthèse, à lundi plutôt qu'à vendredi. Merci. La bise aux enfants. Jean. Voilà. Je lui envoie. Oublie pas le HF. J'espère que t'arrives à dormir. Ça doit être chaud en ce moment. T'es comment là? Gros schmutz. Non, je ne sais pas. Le gouvernement peut-il garder certains amendements qui lui semblent utiles? Oui. Oui. Est-ce que le gouvernement est obligé de dire quels amendements il retient avant que les partis signent la motion de censure? Oui, absolument. Oui. Ah oui, non, on ne vote pas à l'aveugle. Hein. Non, on ne vote jamais à l'aveugle. On sait ce qu'on vote, comment on le vote, etc. Est-ce que le gouvernement peut 49-3 le Sénat? Non. Il n'y a pas de 49-3 au Sénat. Ça laissera le temps de décuver de l'ébriété énergétique du samedi soir. Oui, c'est ça. La censure est à majorité simple. Oui, la censure du gouvernement est à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, soit 289 députés, quels qu'ils soient. Donc tu as raison de poser la question, on aurait pu imaginer 3 cinquièmes et tout, mais majorité qualifiée, mais non, c'est bien une majorité simple. Ça y est, le 49.3 est fait. Comment vous expliquer ça ? La procédure prévu à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, a effectivement été engagé hier par la Première ministre Elisabeth Borne. Compte tenu des dispositions prévues à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 actuellement en vigueur, virgule, il est prévu, il est ouvert la possibilité de dépôt de motion de censure jusqu'à 24 heures après l'engagement de la procédure par le Premier ministre. Les députés de la NUPES ont décidé de speedrun la procédure en déposant direct, cash, une motion de censure, qui en fait était déjà prête. Les députés du Rassemblement National, quant à eux, ont jusqu'à 17h30, pour déposer leur motion de censure. Ensuite, l'Assemblée nationale devra obligatoirement examiner ces motions de censure et les soumettre au vote dans les 48 heures qui suivent ce délai de dépôt. 48 heures étant considérées comme des jours ouvrés, ce sera soit demain vendredi, soit lundi. Compte tenu des impératifs de programmation Twitch du streamer Jean Massier, il serait préférable que ce soit le lundi. Malheureusement, la Constitution est silencieuse en matière de possibilité pour le streamer Jean Massier d'imposer des calendriers sur les votes de motion de censure. C'est un manque cruel de procédure constitutionnelle qui est dénoncé par tous les plus grands constitutionnalistes. J'avoue, je comprends rien. Mais si tu comprends, Non, mais là, je rigole, mais t'as compris. Elisabeth Borne déclenche le 49-3 à 17h le mercredi. Les députés ont jusqu'à jeudi 17h pour déposer des motions de censure. À partir du jeudi 17h, l'Assemblée nationale a 48h pour examiner les dites motions de censure qui ont été déposées. Voilà, c'est tout. Mais si, c'est facile. Il faudrait réviser la Constitution. Sans doute. Donc c'est pour ça que quand vous me demandez « ça y est, le 49-3 s'est passé », je ne sais pas quoi vous répondre. Parce que là, on est en cours de procédure de 49-3 et donc on saura le verdict à l'issue de l'examen des motions de censure. Si Charles Villa, qui offre 5 subs.
T'es une, ouais. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beau gosse, merci Charles Villa pour les 5 subs offerts au chat, ça fait plaisir. Mais dis donc, ça paye bien brut. Merci pour la moulaga. Merci pour les 5 subs offerts au chat, mec. Donc voilà. Donc on est en pleine procédure 49-3. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? S'il n'y a pas de motion de censure déposée dans les 24 heures, le texte est adopté à l'Assemblée nationale en première lecture, ça file au Sénat. Bon, il se trouve qu'il y a une motion de censure déposée, donc on sait que ce ne sera pas ça. Elles vont être examinées, ces motions de censure, vendredi ou lundi. Et qu'est-ce qui se passe? De deux choses l'une, soit une motion de censure est adoptée, auquel cas non seulement le projet de loi de finances est abandonné, mais en plus, le gouvernement d'Elisabeth Borne est viré. Ou alors, aucune motion de censure n'est adoptée par les députés, auquel cas non seulement le gouvernement d'Elisabeth Borne reste en place, mais en plus, le projet de loi de finances est considéré comme adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il file au Sénat. Et voilà. Donc voilà. Pourquoi ils utilisent le 49-3 maintenant ? C'est une bonne question. Alors ça c'est la question qui est effectivement assez intéressante de à quel moment est-ce que le gouvernement déclenche le 49-3. Et c'est là qu'on rentre dans la politique et la tactique parlementaire de se dire qu'il y a des bons et des mauvais moments de déposer des 49-3. Et j'en reviens à ce que je vous disais au début de ce stream, même si vous n'étiez pas tous là, abonnez-vous, followez la chaîne. Il y a plusieurs types de 49-3. À l'usage, à l'histoire de la 5ème République, il y a plusieurs manières d'utiliser le 49-3, il y a plusieurs esprits d'utilisation, il y a plusieurs contextes politiques, il y a plusieurs finalités. Il y a des 49-3 qui sont déclenchés dès le début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, avant même le dépôt des amendements, en mode « bas les couilles, frère ». Là, on est vraiment dans le passage en force. Là, on est sur des... on est sur des 49-3 de brutalisation où le Premier ministre assume de s'asseoir sur la discussion parlementaire en disant « Niquez-vous, 49-3 direct, m'emmerdez pas avec vos amendements, ça part direct ». Ça a été le cas en 2005 avec le contrat première embauche de Dominique de Villepin et ça a été le cas en 2016 avec la loi travail de Manuel Valls. Il y a des 49-3 qui sont utilisés en toute fin de discussion parlementaire compte tenu d'un risque que la loi ne soit pas adoptée par une majorité. Et ça a été le cas. Ça a été le cas pour la loi Macron en 2014, engagée par Manuel Valls. Et ça a été le cas pour Raymond Barre dans les années 70. Et j'ai un doute pour Rocard. Rocard, je pense pas. Je crois que Rocard est déclenché assez rapidement. Ouais. Donc ça, c'est des 49-3 en fin de discussion parlementaire. Et je crois que Manuel Valls avait gardé pas mal d'amendements de l'opposition dans la version qui avait été soumise à... Enfin, qui avait été adoptée par 49-3. Et enfin, t'as les 49-3 comme celui d'Elisabeth Borne, là, qui est un 49-3 à cheval, ni au début ni à la fin, un peu au milieu de la discussion, alors que les députés ont commencé l'examen des amendements, et qu'en fait, l'examen des amendements montre une impossibilité de trouver des compromis. Alors, une impossibilité, c'est toujours pareil. C'est... À qui la faute ? C'est toujours pareil. À qui la faute de l'absence de compromis ? Évidemment, la faute, c'est toujours les autres. Donc c'est normal. Les oppositions disent que c'est à cause d'Elisabeth Borne qui ne fait pas d'effort et qui ne veut rien lâcher. Elisabeth Borne dit que c'est à cause des oppositions qui ne font pas d'effort et qui ne veulent rien lâcher. Question de point de vue, votre opinion, n'hésitez pas à me la partager. Il y avait un autre 49-3 auquel je pensais. Ouais, t'as le 49-3 anti-obstruction, ça existe aussi. Le 49-3 anti-obstruction, c'est un 49-3 qui est utilisé en cours de procédure, donc un peu à l'Elisabeth Borne, mais qui sert au gouvernement à mettre fin à une situation de blocage de la discussion à l'Assemblée nationale du fait d'un groupe qui a décidé d'embouteiller le texte et d'empêcher sa discussion. Ça a été le cas pour la réforme des retraites en janvier 2020, dans un contexte Covid, donc un peu particulier. Donc là c'était clairement une obstruction et c'était Édouard Philippe qui l'assumait comme tel et c'était le cas pour Raffarin qui avait fait un 49-3 sur la loi sur l'énergie mais en fait Raffarin il n'avait pas eu besoin d'utiliser le 49-3 il avait simplement menacé de l'utiliser et ça avait suffi à forcer les députés à négocier. Voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs 49-3, ne serait-ce que le moment où le 49-3 est déclenché au cours de l'examen parlementaire, vous montre qu'il y a plusieurs manières d'utiliser le 49-3. Ensuite, il y a plusieurs contextes d'utilisation du 49-3. 49-3 blocage, 49-3 opportunité, 49-3 aveu de faiblesse, 49-3 passage en force. Voilà, 50 nuances de 49-3. Ah ouais, il faudrait que je l'écrive ce bouquin. Ça va pas être super bordant, hein, mais... Problème, il y a des oppositions. Pourquoi pas les mêmes objectifs ? Solution, définir des objectifs pour mettre en place des lois. Bah, n'hésite pas à te présenter. Oui, c'est bien dit, oui. Il y a des problèmes, donc il faut trouver des solutions. C'est bien dit. Merci RNAs pour ton prime. Merci à tous hein, pour vos abonnements et vos réabonnements. Désolé de ne pas vous remercier nommément à chaque fois. Mais voilà, c'est au fond de mon cœur. Merci à vous. Et je transmets évidemment vos noms et prénoms au ministère de l'Intérieur qui tient un fichier à jour des opposants au régime que vous êtes. Non, je rigole. En plus, faut pas trop rigoler avec ça parce que en Ukraine et en Iran en ce moment, c'est... Ouais. En Russie, en Iran, ouais. Bref, pardon. Le 49-3 permet de potentiellement bypass la haine, mais pas le Sénat. Exactement. Charles Villa a tweeté pour te faire de la pub. Qu'est-ce qu'il fait ce con ? Charles, tu fais des bêtises. Arrête, il est trop gentil ton tweet. Regardez le tweet de Charles. On se rend pas compte de l'intérêt public de la chaîne Twitch de Jean Massier, quasi 5K viewers sur un live sur le 49.3 avec un décryptage de la pédagogie pendant des heures, réponse à plein de questions, donnez-lui des subventions de l'audiovisuel public, nom de Dieu. attends, je vais. À moi la redevance. Ah bah non, merde. MDR!
Je possède des...
Non, 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 pardon. Je possède pas du thune. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une faute de frappe? À moi le redevance. Ah! Merde. Trop tard. Désolé, j'étais bourré. Merci Charles, hein, merci, des bisous. Il y a eu combien de motions de censure qui sont passées depuis le début de la Ve République? Il y en a eu un nombre total de une seule. C'était en 1962. Environ un. Écoute, les mathématiques ne sont pas une science exacte, mais on était à un nombre total avoisinant l'unité. Donc voilà. Parce que ça passe jamais. Oui, mais comme vous suivez la chaîne Twitch de Jean Massier, vous avez compris le principe du fait majoritaire, et donc vous comprenez pourquoi c'est logique que ça passe pas si souvent que ça, en fait, les motions de censure. Mais oui, ça a du sens. Puisque le gouvernement, en principe, coucou Elisabeth Borne, j'espère que ça va. Mais hors Elisabeth Borne, puisque le gouvernement découle d'une majorité à l'Assemblée nationale, il est normal que les motions de censure, lorsqu'elles sont déposées, aient peu de chances de recueillir une majorité de voix à l'Assemblée nationale. C'est cohérent, c'est pas absurde. Le 49.3, c'est illimité comme cheat code. Non! Avant, c'était illimité comme cheat code, le 49.3. Mais en 2008, il y a eu une réforme de la Constitution. Et les députés à l'époque ont décidé de. Enfin, les parlementaires ont décidé de limiter l'usage du 49.3 à un seul texte de loi par an, par session, hors texte budgétaire. Où là, il est utilisable autant de fois que voulu, que souhaité par le gouvernement. Mais pour le reste, il n'y a qu'une seule loi par an. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me dis, doit y avoir des députés qui étaient députés en 2008, à l'époque UMP, qui à l'époque ont voté ça en se disant que c'était bien, et qui aujourd'hui sont passés chez Macron et qui doivent s'en mordre les doigts 14 ans plus tard en se disant putain, qu'est-ce qu'on a été con. Oh, mais qu'est-ce qu'on a été con, putain. On a limité l'usage du 49.3 et là on se retrouve comme des cons dans la merde à pas pouvoir réformer quoi que ce soit. Je sais quand même, ouais, j'avoue le karma. J'avoue le karma. Ah ouais les gars. Hein. Mais alors ça, ce genre de situation d'ironie là, si vous saviez le nombre de fois que ça existe en politique, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. C'est comme quand Balkany se retrouve à faire de la tôle. En application d'une loi qu'il a votée lui-même en tant que député à l'époque, tu dis, eh, c'est un peu marrant quand même. C'est, eh. Il faut pas grand-chose, hein. C'est goldé. C'est comme Mitterrand qui, finalement, après mûre réflexion, se dit que la Ve République, c'est pas si mal que ça. On en fait des caisses, mais oh. Il a lui-même écrit un livre pour dire à quel point la Ve République c'était de la merde et c'était acheté aux chiottes. Puis bon, quelques décennies plus tard, on va dire qu'il a mûri. Tout le monde a trop de pouvoir, surtout quand c'est pas nous. Oui, c'est ça, c'est très bien résumé. C'est très très bien résumé. Mais non, mais bon, la vie politique est pleine de ces petites ironies. Il faut savoir en rire. Parce que sinon, on va se mettre qu'à chialer. Et au bout d'un moment, c'est relou. Donc moi, je préfère en rire. Je trouve ça marrant. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme ironie comme ça? LFI qui demande la démission d'un ministre mis en examen pour violence conjugale, et 2 semaines plus tard, Adrien Quatennens s'est mis en examen pour violence conjugale. Ça aussi, c'était tristement ironique. Il a été mis en examen, il a été placé, je crois, il a été. Oui, il a été mis en examen après audition, ouais. Non, il n'est pas encore mis. Mais si, mais si, mais si, mais si. Si, si, il l'a été. Non? Si, si. Et du coup, il s'est retiré. Ah non, il est toujours député, il n'a pas démissionné de son mandat. Chirac qui dissout l'Assemblée nationale pour des élections des députés. Colle aux élections présidentielles aussi. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur 95. Non, mais 95, quand il y repense, c'était très drôle. Chirac qui dissout en se disant, t'inquiète, je vais avoir une majorité, les Français me font confiance. Bah évidemment, ils viennent de m'élire, les Français. Évidemment qu'ils vont me donner une majorité. Et les Français qui répondent, hold my beer. Do you know Parti Socialiste? Donc il y a ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ironie comme ça? Bah oui, si, si, bah si, si, t'as François Hollande qui fait campagne à la présidentielle en disant si je suis élu, je supprime le 49-3. Puis bon, finalement, tout bien réfléchi. Hop là. T'as ça. Jérôme Cahuzac mis en examen. Bah, pour le coup, Jérôme Cahuzac, il a non seulement il a démissionné de son poste après être passé aux aveux, mais en plus dans la foulée, il y a eu une loi qui a été votée justement pour que des affaires Cahuzac n'arrivent plus jamais. C'est la loi pour la transparence de la vie publique qui a créé notamment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Je trouve un qui parle de la mise en examen de Quatennens. Alors moi j'avais cru comprendre que Adrien Quatennens avait été entendu par les enquêteurs qui ont décidé, dans le cadre de l'ouverture d'une enquête, qui ont décidé de le placer sous le statut de mise en examen. Mais peut-être que je me trompe, hein. Il y a juste ouverture d'enquête. Alors je me trompe. Du coup, autant pour moi, excusez-moi. Non, 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 non. Adrien Quatennens n'est pas mis en examen. Il y a juste une enquête ouverte. Enquête judiciaire ouverte. Ok, d'accord. Pourquoi j'avais lu qu'il était ressorti de l'audition sous statut de mise en examen? Je dois confondre avec autre chose. Je dois confondre avec autre chose. Ok, je me suis trompé. Est-ce que l'utilisation du 43 pour le budget, c'est fréquent? Pas tant que ça, non. Enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lille dans le cadre de sa politique pénale volontariste sur le traitement des violences conjugales. Ça, d'accord, mais est-ce que Quatennens a été entendu par les enquêteurs? Tu confonds pas avec Dupond-Moretti. Alors, Dupond-Moretti, non seulement il a été mis en examen, mais il a été renvoyé devant le tribunal. Oui, il a été entendu. Ok, il a été entendu. Ok, bah, je me suis trompé, alors j'ai cru comprendre qu'il avait été mis en examen. Il a une immunité parlementaire. Oui, mais je doute qu'il l'utilise. Tu confonds avec Alexis Colère. Ah, je confonds peut-être avec Alexis Colère qui, lui, a été mis en examen dans le cadre de l'affaire MSC Croisière, c'est ça? Mélenchon aussi a été mis en examen. Récemment? Non. Si? Ah, non, c'est LFI. Ah, si, dans le cadre du financement de campagne. Ah non, Mélenchon avait été condamné pour rébellion, outrage, machin, mais ça s'est déjà passé. Mais là, c'est effectivement récemment dans le cadre du financement de la campagne 2017, c'est ça? Enfin, c'est pas le financement de la campagne qui lui est reproché, c'est le délit de favoritisme, je crois. Pas lui directement. C'est pas lui directement? C'est l'aire du peuple et d'autres personnes physiques. Moi, je croyais qu'en tant que candidat, il était responsable de son budget et que donc il était mis en examen. Ok. Bon, bah du coup, pardon, je bégaye. Décidément. Pourquoi NUPES et RN ne votent pas ensemble la motion de censure? Ça ouvre la porte au 19-3. 19-3, tu veux dire dissolution? Au 49-3, oui, c'est ça, au 49-3. Pourquoi est-ce que la NUPES et le RN ne votent pas la même motion? La réponse simple à cette question, c'est parce que la fin ne justifie pas toujours les moyens. En tout cas, pour certains députés, la fin ne justifie pas tous les moyens. En plus, c'est pas suffisant. Oui, NUPES plus RN, ça fait pas une majorité, il manque encore les Républicains. Ce que je veux dire par là, quand je dis que la fin ne justifie pas les moyens, la fin, c'est le départ du gouvernement d'Elisabeth Borne. Ça, c'est la fin qui peut être souhaitée par des députés. Notamment les députés de la NUPES, par exemple, ou les députés du RN. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour obtenir le départ et la démission du gouvernement d'Elisabeth Borne? Et qu'est-ce qu'ils sont pas prêts à faire? Et ça, c'est une question auxquelles les députés ont parfois des réponses différentes les uns des autres. Il y a des députés qui sont prêts à tout. Pour envoyer le gouvernement d'Elisabeth Borne, y compris à soutenir l'argumentaire du camp d'en face. Et il y en a pour qui il y en a qui sont pas prêts à tout, qui disent non, non, mais je. Il y a des députés NUPES qui disent je voterai jamais de la vie un texte de l'extrême droite, même si c'est pour virer un gouvernement que j'aime pas. Pareil du côté du RN. Député du RN qui dit je suis pas prêt à soutenir la NUPES, je suis pas prêt à voter un texte de la NUPES, jamais de la vie, même si c'est un texte qui pourrait obtenir le départ d'Elisabeth Borne. C'est des gamins. Bah, peut-être de ton point de vue, mais ils ont des raisons. Comment te le dire autrement? C'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec toi qu'ils sont cons. En cas d'adoption de la motion de censure et de dissolution du gouvernement, l'AN est-elle dissoute? Oui, en cas de motion de censure, le gouvernement est censuré. Est-ce qu'il y a une dissolution derrière? Bah, ce serait très fort probable, oui. C'est pas certain. On ne sait jamais. Des fois que dans les négociations, un gouvernement alternatif, parvienne à réunir une majorité. Merci Julia Lagré pour tes 5 subs offerts au
Je chat! possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup Julia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Macron a quand même agité la menace de dissolution. Oui, moi je trouvais ça un peu ballsy de sa part de menacer de dissoudre, parce que moi j'ai toujours dit c'est pas une menace en fait, c'est que t'auras pas le choix mon grand. Tu vois, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est gentil de dire attention, hein, si vous votez la censure, je dissous. Je veux dire, bah, non, mais c'est pas une menace, en fait, t'auras pas le choix, donc fais pas croire que c'est un truc que tu as. Politiquement, tu vas te retrouver dans une situation où. Bah, ouais, enfin, vas-y, dissous. Tu veux faire quoi d'autre? qui ça arrangerait à l'heure actuelle de dissoudre? Et ça, c'est une bonne question. C'est une question aussi qu'il faut garder en tête parce que ça peut aussi être un résultat souhaité par des députés. Il y a peut-être des députés ou des groupes ou des partis qui souhaitent la dissolution. Alors, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui a le plus intérêt à la dissolution aujourd'hui? Le RN? Ouais. LR? LFI aussi, ouais. LFI aussi. LFI ou, ou NUPES? C'est pas pareil, hein. Moi, je pense NUPES. Je suis comme vous, je pense NUPES. Je pense que tous les groupes de la NUPES ont intérêt à une dissolution. Et qu'ils ont des chances. Alors, ça veut dire quoi, avoir intérêt à la dissolution? Pardon, il y a peut-être des gens qui nous entendent discuter et qui ne comprennent pas. Avoir intérêt à ce que l'Assemblée nationale soit dissoute, ça veut dire estimer qu'on a des chances de faire un meilleur score aux élections qui seront déclenchées par la dissolution. Non, pas les communistes ou ELV. Ah, je sais pas. Bref. Non, si. LREM tous les jours. Bah non. Enfin, qu'est-ce qui te permet de dire qu'LREM. En pleine crise énergétique, les députés En Marche, là. Enfin, Renaissance, pardon. Non, la NUPES, je pense que ça partirait bien pour la NUPES. Est-ce que l'effet boost fusion de la NUPES n'est pas un peu retombé? Bah justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que non. C'est-à-dire que je pense que l'accord de la NUPES date d'il y a un an, que pour l'instant, les députés n'ont eu l'occasion d'examiner que trois projets de loi, en gros. Enfin, trois projets de loi importants, quoi. Et que du coup, la NUPES est encore suffisamment frais pour pouvoir reconduire dans leur circonscription tous les députés sortant de la NUPES et pour pouvoir croiser les doigts et se dire qu'on a moyen d'en gagner d'autres des circonscriptions. Je pense. Ouais, c'était il y a 6 mois en plus, t'as raison. Mais oui, t'as raison en plus. Gogo NPA. Ah, tu crois que le NPA... Oh, vous imaginez, le NPA pourrait remporter une élection pour la première fois de son histoire. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas. Le combo LFI, PS, ELV, PCF, NPA, ce serait incroyable. Ah, le NPA ne veut pas, ils l'ont dit assez clairement, ils ne souhaitent pas faire partie de cette coalition. Donc voilà, donc moi je me dis que la NUPES, ils sont à 6 mois de leur accord, ça a bien marché jusqu'à présent, ils ont été bruyants à l'Assemblée, dans le sens où ils ont pu présenter aux Français. La NUPES a quand même obtenu des victoires symboliques intéressantes. Hein. La NUPES a réussi à imposer dans le débat public... un certain nombre de thématiques, alors parfois à leur corps défendant, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes par exemple, ça, c'est drôle mais c'est pas drôle, la taxation des super profits, le barbecue, l'exit tax, alors le barbecue, peut-être pas le meilleur exemple, mais bref, voilà, la NUPES, pour moi, ils ont eu des... Et ouais, la hausse du SMIC, ouais. La hausse du SMIC, les jets privés, la discussion sur les jets privés. Là, il y a Julien Bayou qui redépose un amendement sur la dépénalisation du cannabis. Donc, je pense que la NUPES, en 6 mois, a réussi à imposer dans le débat public des thèmes, des mots, des concepts. Et je pense que ça peut être intéressant pour eux. De l'autre côté, parce que là on parle que de la NUPES depuis tout à l'heure, vous l'avez dit dans le chat et vous avez raison, qui d'autre a intérêt à la dissolution? Le RN, et je suis d'accord avec vous, je pense que tout comme la NUPES, le RN a été un peu déçu de son score aux législatives. Marine Le Pen est arrivée au second tour de l'élection présidentielle pour la deuxième fois et elle n'a obtenu que 89 députés. Du point de vue de Marine Le Pen, ça doit être un peu décevant et elle doit se dire on peut faire mieux. S'il y a dissolution, il y a moyen d'en gagner. Le truc, c'est que Ils sont passés de 9 à 89. Ouais. Oui, mais je pense que Marine Le Pen souhaiterait avoir plus de députés que la NUPES. Ouais, il y a quelqu'un dans le chat qui le dit, et je suis d'accord avec toi, Zemmour, c'est pas Tauber qui dit ça, Zemmour serait gagnant à rempiler sur l'élection, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'un de ceux qui attend le plus la dissolution, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour a totalement disparu du paysage politique depuis le premier tour de la présidentielle. Genre depuis mai dernier, on ne parle plus de lui, le monde ne tourne plus autour de lui. Alors que je vous rappelle qu'il y a un an, je sais pas si vous vous souvenez, l'automne dernier, en pleine présidentielle, là, vous vous souvenez de la Zemmour mania sur toutes les chaînes d'information en continu. Zemmour marche dans la rue, Zemmour a mangé une biscotte ce matin au petit-déj, Zemmour serre la main de quelqu'un, Zemmour, 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 mais matin, midi et soir, le monde tournait autour de Zemmour. Zemmour était donné à 18% au premier tour. Enfin, c'est vraiment, mais on n'en pouvait plus. Il se trouve qu'il s'est effondré à 7% au premier tour et que depuis ce jour-là, mais vraiment, le mec a disparu. Il n'a pas été foutu d'être élu lui-même aux législatives dans une circonscription qui pourtant genre à Saint-Tropez quoi. Lui qui nous vantait la France de Bardot et de Delon. Bon, il n'a pas été foutu d'être élu à Saint-Tropez et aucun des candidats de son parti n'ont été élus nulle part en France. Donc le mec coiffé au poteau par Marine Le Pen, de ouf quoi. Donc je pense que lui, il ronge son frein, Éric Zemmour, qui meurt d'envie de remporter au moins une circonscription, la sienne, pour revenir un peu dans le jeu et se pointer à l'Assemblée nationale. Merci Mr. Plouk, merci beaucoup pour les 493 bitcoins. Tu perds un peu ton objectivité. Ça va, je fais une blagounette sur le fait que Éric Zemmour s'est présenté à Saint-Tropez. Et sur le symbole de Saint-Tropez dans l'imaginaire collectif des années 60 du cinéma et de la musique. Ça va. Ça va. Vous me l'accordez, celle-là. J'ai fait des blagues tout à l'heure sur Quatennens et les violences sexuelles et sexistes. Les insoumis du chat, ils ont avalé leur salive et ils ont dit « Ouais, bon, j'avoue, c'est un peu drôle, la blague. » Non, mais il y a un moment, si on se focalise... Non, mais les gars, voilà. Faut qu'on s'autorise des blagues, quand même. Accordé. Ça joue, ça joue. On peut plus rien dire. Ah, de toute façon, on peut plus rien dire, hein. Alors que dans les années 60, vous pouvez rigoler, hein. Un partout, la balle au centre. Voilà, on va dire ça. Bref, arrêtez avec vos conneries. Putain, j'essaie de me concentrer. J'étais en train de vous dire qui a le plus intérêt à une dissolution. Éric Zemmour, certainement. Il veut revenir dans le centre du jeu politique institutionnel après en avoir été exclu honteusement. Vous avez vu, j'ai pas dit minablement, alors que je le pensais. Ouais, je suis sympa. Marine Le Pen a clairement intérêt à une dissolution. La NUPES a clairement intérêt à une dissolution. Et qui n'a absolument pas intérêt à une dissolution? Renaissance et les Républicains. Pourquoi le centre-gauche type PRG n'a plus beaucoup d'existence dans le paysage parlementaire? Bah, parce que le radicalisme, d'une manière générale, c'est une école de pensée politique qui a un peu perdu de son importance stratégique et tactique et de son positionnement depuis la Ve République, avec le fait majoritaire, premièrement. Donc les radicaux de gauche, ils restent présents au Sénat, parce qu'ils sont encore présents dans les collectivités locales et dans les territoires, mais qu'en vrai, au niveau national, c'est plus vraiment ça. Et puis parce qu'ils ont été bouffés par le PS avec le programme commun et la cohabitation en 97. Enfin, le PRG a un peu disparu quoi avec le temps, mais c'est en grande partie lié à l'histoire de la cinquième quoi, qui a beaucoup permis l'émergence des gros blocs qu'ont été l'UMP et le PS pendant des années quoi. Ça pourrait renaître, les gens ont besoin de mesures pour sortir de la polarisation de la pensée politique. Alors oui, mais pour l'instant, celui qui a réussi à tirer le meilleur parti de cette mesure dont tu parles, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a réussi à attirer à lui en 2017 et en 2022 le vote des Français modérés à la recherche de la culture du compromis, pour beaucoup anciens électeurs socialistes ou UMP, tu vois. Donc j'ai envie de dire que le parti radical de gauche s'est fondu au niveau national, s'est fondu pour partie dans le macronisme méthodologique et pour partie dans la social-démocratie du Parti socialiste. Voilà. Ça existe encore le PS. Alors non seulement ça existe, mais ils vont bien le PS. Hein, ils ont. C'est un des partis qui se porte le mieux à gauche. En nombre d'élus. La culture du compromis, mon Dieu, on en est là. À croire que si on n'est pas extrémiste en France, c'est pas normal. Oh, tu tires un peu fort là. La culture du compromis, enfin, c'est très bien. Il y a plein de gens qui ont une culture du compromis. Des sociaux-démocrates aux écolos, en passant par le centre-droit, les gaullistes sociaux, les. Quand même. Hollande en deuxième personnalité préférée des Français, à ce qui paraît. IFOP. Peut-être, hein, on peut être surpris. Hollande, je vous rappelle qu'on l'a surnommé pendant longtemps le culbuto, en référence à sa capacité incroyable à rebondir et à revenir. Donc moi je dis, Hollande, candidat de la gauche en 2032, c'est possible. Il y a un monde. Il y a un monde où c'est possible. Comme disait Jean-Luc Mélenchon, il y a un trou de souris. On vise bien, on peut le faire. Il a ouvertement critiqué la NUPES, donc je sais pas trop. Ah, mais ça s'appelle les remontadas en politique et ça existe. Ça existe. François Hollande, quand il se présente à la primaire du Parti socialiste en 2012, en 2011, donc l'année précédente, pour devenir le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, il est donné dans un premier sondage à 5% d'intention de vote. Je vous rappelle la suite de l'histoire ou c'est bon, vous l'avez en tête? Merci DSK. Ouais, enfin, c'était pas automatique que les voix de DSK se reportent sur Hollande. Hein. Il y avait aussi Valls, hein, qui était candidat en 2011. Rappel, je suis plus sûr. Oh, bah un an plus tard, François Hollande était élu président de la République. C'est ça la suite de l'histoire. Monsieur 3%. Ah, t'as raison. Ouais, t'as raison. Oui, je me souviens de cette anecdote. Monsieur 3%. C'était le surnom acerbe qui lui était donné par les Fabiusiens pour l'emmerder. Donc, Monsieur 3% deviendra quelques années, un an plus tard, président de la République française et, par revanchard, nommera Laurent Fabius ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas rancunier, ce François, quand même. Hein. Monsieur 3%, c'est Valls. Je me souviens plus. Monsieur 3%, c'était Valls? Mais non, mais oui, non, monsieur 3%, c'est parce que Valls, ça fait 3% à la primaire de 2016. C'était 0,3%, c'était Copé. C'était Copé qui avait fait 0,3% à la primaire Les Républicains. Je sais plus, je sais plus. J'ai plus la ref. Ça confond les socialistes. Ah ouais, non, puis c'est mon Pokédex est rempli, là. Je m'embrouille l'esprit. Le capitaine de pédalo, ça c'était Méluche. C'était Jean-Luc Mélenchon qui avait dit François Hollande, c'est un capitaine de pédalo dans la tempête. Bon, bref, écoutez, peu importe, mais voilà. Donc, ouais, donc des remontadas en politique, on en a vu. On en a vu des remontadas en politique. Je pourrais vous parler donc de Hollande en 2011. Je pourrais vous parler de Delanoë en 2000. Je pourrais vous parler. Il y a qui d'autre en politique qui a fait des remontadas de l'espace? Il y a un mec qui s'appelle Charles de son prénom, De Gaulle de son nom de famille, qui nous a aussi fait une remontada de l'espace. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Macron, ouais, Macron quand il pense, Macron en 2017, c'était une forme de, pas de remontada, mais de montada. Macron, il y a un mec qui crée son parti en 2016, il devient président de la République en 2017. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de France, hein. Une telle vitesse de... Le speedrun du truc. Chirac en 95 vis-à-vis de Balladur, ouais. Chirac en 95 vis-à-vis de Balladur, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Balladur était quand même donné grand favori. Et que Chirac a été incroyable. Giscard, il a été élu en 74, mais comme c'était suite au décès de Pompidou, c'était une campagne très bizarre, hein. Ça allait très très vite. Ça allait très très vite. Donc Giscard, ouais. Mitterrand, ça a pris du temps. Mitterrand, ça a été long. Alain Poher, le clutch du siècle, là, ça compte pas. Ça montre à quel point les gens ne se reconnaissent plus dans les partis politiques actuels. Bah, je viens de te donner l'exemple de Giscard en 74. Ça veut dire que c'est pas nouveau, ça. Jospin, ouais, Jospin, il a fait la remontada du siècle. Jospin est balayé en 95 et il revient par la petite porte en 97, c'est vrai. Napoléon III, il a fait fort. Ouais, alors lui, il a utilisé des armes, c'est pas tout à fait pareil. C'est un autre genre de remontada. Oui, bon, alors de ce point de vue-là, si on commence par là, Mao Tse-Tung. Oui, c'est vrai. Fidel Castro aussi, oui. Non, mais si on compte les coups d'État militaires, non, on n'est pas fini. Léon Blum qui arrive au pouvoir en 36, il partait d'où lui? Il s'était planté avant sur le cartel des gauches? Pinochet aussi, belle remontada. Non, alors tiens, j'ai vu un film d'ailleurs. Il y a un film sur le référendum Pinochet. C'était en quelle année le référendum Pinochet? Dans les années 80, non? En 78. Le film s'appelle No, N-O. Et c'est un film extraordinaire qui raconte l'histoire vraie, peut-être un peu romancée dans le film, mais c'est une histoire vraie, de la campagne pour le référendum Pinochet. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les années 70, Augusto Pinochet est donc un dictateur sanguinaire absolument horrible, qui torture ses opposants, qui fait des enlèvements de masse et tout. Et Pinochet est obligé par la communauté internationale d'organiser un référendum au Chili. Et il se plie à ce référendum en se disant « Vas-y, je vais faire le référendum, ça va calmer la communauté internationale. » Mais de toute façon, c'est un référendum... Donc c'est un référendum sur je ne sais plus quel projet de réforme constitutionnelle ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, en vrai, c'était pour ou contre Pinochet. C'était ça, le sujet du référendum en vrai, et ça tout le monde le savait, c'était pour ou contre Pinochet. Est-ce qu'il faut continuer avec Pinochet au pouvoir ou pas ? Et donc Pinochet se dit on va faire une campagne pour le référendum, mais Pinochet contrôle la télévision à l'époque intégralement. Évidemment, la télévision c'est la télévision d'État, c'est Pinochet qui décide de quoi on parle aux infos, etc. Donc il se dit que il peut pas perdre le référendum. Et effectivement, quand tu regardes les sondages au début de la campagne référendaire, le oui à Pinochet est donné gagnant à entre 65% et 70% des voix, quoi. Donc Pinochet se dit, enfin, ça va le faire, hein, ce référendum, on va le gagner, OSEF. Et Pinochet, dans sa grande générosité, offre aux partis politiques qui sont réunis dans une coalition de la campagne du non, donc les opposants à Pinochet, il leur offre des espaces d'expression à la télévision d'un quart d'heure par jour pour donner leurs arguments pour le non au référendum. À l'époque, la coalition des partis opposés à Pinochet, c'est essentiellement les communistes. Il y en a d'autres, mais c'est surtout les communistes qui s'opposent à Pinochet. Et il est bien bon, ce monsieur Pinochet, d'offrir un quart d'heure au Parti communiste, sauf qu'en réalité, Pinochet maîtrise les 23h et 45 minutes restantes de la journée à la télévision. Donc évidemment, mais bon. Donc les communistes se contentent de ce truc-là. Et le film raconte que les communistes ont commencé la campagne référendaire en utilisant ce quart d'heure de communication à la télévision pour dénoncer Pinochet. Il faisait des espèces de spots publicitaires très larmoyants sur les tortures de Pinochet, sur le nombre de disparus, hein, les desaparecidos. Bref, c'était une dénonciation acerbe du régime de Pinochet, très larmoyant, très sanglant, etc. Et ça prenait pas du tout dans l'opinion. Et ce que raconte le film, c'est que la coalition des partis de gauche décide d'aller chercher un publicitaire proche des anti-Pinochet au Chili, mais qui travaille aux États-Unis, qui est chilien mais qui bosse aux États-Unis, et qui lui propose de prendre la direction de la communication de la campagne du non. Et le publicitaire accepte cette mission, qui est quand même très dangereuse. Hein. À l'époque, on est quand même dans un pays, il y a des enlèvements, le mec risque sa vie et tout. C'est payé que dalle, mais il décide de dire « Ok, j'accepte le challenge, je vais m'occuper de la campagne de communication du non au référendum à Pinochet au Chili. » Et en fait, ce que va faire le mec, c'est un génie de la communication et de la publicité, c'est qu'il va mettre en place une stratégie de communication en se disant « On n'a qu'un quart d'heure par jour à la télévision. On va mettre une campagne de communication qui doit faire passer le non à Pinochet à un oui. Un oui à un meilleur Chili. Oui à un meilleur avenir. Oui au bonheur, oui au plaisir, oui à la modernité et tout. » Et ce que va faire le mec, c'est qu'effectivement, il va transformer le non à Pinochet en oui. Oui à tout le reste, à la démocratie, oui à... Et donc il fait une campagne publicitaire, le logo de la campagne du non, ça devient un no avec un petit arc-en-ciel dans le haut. Il fait une campagne hyper souriante en utilisant volontairement des clins d'œil aux campagnes de Coca-Cola, etc. Il fait des clips musicaux à la télévision avec des gens qui chantent et qui dansent sur un espèce de no avec des pieds, avec écrit NO sur les deux pieds qui font ça. Et des gens qui dansent et tout, qui sont contents. Il fait une fausse pub pour du soda. Le soda s'appelle le no, et les gens le boivent, et les jeunes le boivent, et c'est trop cool le no et tout. Et en fait, le mec, en quelques mois de campagne référendaire, il réussit à complètement retourner l'opinion publique chilienne. Il contribue à ringardiser Pinochet, qui, alors qu'il partait de 66% d'opinions favorables, de vote pour le oui, se trouve en fait à être regardisé, à passer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mec arriéré, un militaire fasciste, machin. Et le no, no is the new yes. Et le mec, en fait, la campagne du non devient ce que ça a été, c'est-à-dire, et donc c'est, vous connaissez la suite de l'histoire, en 78, le non a gagné le référendum. Mais les Chiliens ont voté non avec le sourire aux lèvres en se disant c'est oui à un Chili, oui à l'avenir. Et donc, voilà, donc le film s'appelle No et je vous invite à le regarder parce qu'il est extraordinaire, raconte cette histoire dingue de comment tu peux retourner un pays entier en montrant aux gens, en faisant une campagne politique juste d'espoir, de renouveau et tout. Et ils ont effectivement réussi à dégager un dictateur avec un référendum, en remportant le référendum. Alors que la campagne du oui, je vous laisse imaginer, la campagne du oui au référendum, ils avaient tous les pinochistes derrière eux. Il y avait du pognon, il y avait des pétrodollars, il y avait l'armée, il y avait Pinochet, il y avait la télévision. Enfin, les mecs, c'était David contre Goliath, quoi. Donc voilà, le film s'appelle No, il a été réalisé par Pablo Larrain. Merci pour les gens qui l'ont mis dans le chat, d'ailleurs. C'est 88, le référendum ? Ah oui, c'est 88, pardon, 78, c'est le référendum, c'est le plébiscite de Pinochet. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, pardon. Excuse-moi, j'ai confondu les deux référendums. Pinochet arrive au pouvoir en 73 avec son coup d'État contre Allende. Il fait un plébiscite en 78 où il remporte largement le référendum. Et il fait du coup un deuxième référendum en 88 en se disant « T'inquiète, ça va passer comme une lettre à la poste. » Et en fait, zou. On le trouve où? Je sais pas. Quelque part sur Internet, tu vas trouver le film qui s'appelle No. Et le réalisateur, c'est Pablo Larrain. Donc si vous arrivez à le trouver, regardez-le. C'est un beau film, c'est sympa. Ça raconte une histoire chouette. T'as une mémoire de dingue pour les dates. Coup d'État de Pinochet en 73 au Chili, c'est une date extrêmement importante dans l'histoire contemporaine, enfin dans l'histoire de la gauche, quand même. Allende 73, le 11 septembre. Le 11 septembre. 11 septembre dont j'ai la mémoire pour un autre événement, aussi très triste, mais qui a eu lieu un peu plus tard. Le film est sur Prime. Tu veux dire Amazon Prime ? Le service qui vous permet de vous abonner gratuitement à ma chaîne. Mais non, je force pas. Voilà, regarde Kildan. Kildan qui va pouvoir regarder No sur le service Amazon Prime. Maintenant qu'il est abonné à ma chaîne. Ça alors, dis-moi en plus. On dirait les mauvaises pubs, tu sais. Merci Mini Caput, merci Julien Lee. C'est gratuit si vous payez. Ouais, et c'est ça qui est beau. Merci Kefa, merci Sunstrike trop fort. Merci Familia Bear, merci Karzak. C'est fou, ça marche bien hein, ce service Prime d'Amazon. C'est vachement bien fait. Ça veut dire que toute personne qui a un compte Amazon Prime... Pour quelque raison que ce soit, soit pour le Prime Vidéo, soit pour le service de livraison Amazon et tout gratuit et en 24 heures, toutes ces personnes-là ont la possibilité de s'abonner gratuitement à ma chaîne en cliquant simplement sur un bouton. C'est vachement bien fait quand même. Merci WillyNJ72, merci Karzak, merci Ono Majestu, merci Bolkonski, merci Licorne, merci Satoriteru. Merci beaucoup. Merci Midano. Ça me fait penser que mon Prime dormait depuis deux jours. Ah, moi, si je peux réveiller vos Primes, c'est avec grand plaisir. Merci Captain Phoenix. Tu m'as convaincu. T'as vu, c'est bien fait. Hein. Ça marche avec Salomé aussi. Merci Célat U. Ça marche avec Salomé. Salomé Saké. Ah, si vous êtes abonné à Salomé Saké. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne en utilisant votre carte bancaire. Ça marche aussi très très bien. Merci Mikouille. Merci Bête à savoir. Merci Twin Chaos. Tu peux t'abonner qu'une fois avec Prime, tu peux t'abonner tous les mois. Donc une fois que tu te seras abonné, tu peux mettre une alerte dans ton agenda mensuel pour dire renouveler Prime chez Jean Massier. Ça marche très bien. Merci Nesverge, merci Mokev. Merci Ziran. Il se passe quoi au Royaume-Uni avec la Première Ministre ? Liz Truss a présenté sa démission, qui était devenue à peu près inéluctable après le limogeage de son ministre du budget et la démission de son ministre de l'Intérieur. Je crois qu'elle aura le record du gouvernement le moins long de l'histoire du Royaume-Uni, de l'histoire récente. Elle a été nommée le 6 septembre. On est le 20 octobre. Sachant qu'au milieu de ça, il y a eu le décès de la reine. Pourquoi son mini-budget lui a coûté sa place ? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Liz Truss, donc c'est la première ministre britannique. Je vous expliquerai et ensuite je vais arrêter le live parce que là, je commence à fatiguer. Liz Truss a été nommée première ministre le 6 septembre en remplacement de Boris Johnson, soutenu par les électeurs de son parti, le Parti conservateur britannique, les Tories. Liz Truss a été élue avec un projet de soutenir un véritable plan de lutte contre l'inflation, mais surtout de relance économique assez brutale. Et donc, quand elle est arrivée au pouvoir, elle a présenté ce qu'on appelle, dans le jargon britannique, un mini-budget. Un mini-budget au Royaume-Uni, c'est l'équivalent de ce qu'on a en France sous la forme de budget rectificatif. En gros, c'est une loi budgétaire qui portent des réformes qui servent à mettre en place une politique publique rapidement, quoi. Et le mini-budget qu'a présenté Liz Truss au début du mois de septembre était un mini-budget très impressionnant parce qu'il proposait ni plus ni moins que de couper un certain nombre d'impôts, de réduire les impôts sur les plus grandes, sur les plus riches et sur les entreprises de manière assez drastique, assez impressionnant en termes de mini-budget. Enfin, vraiment, elle proposait un choc fiscale pour booster l'économie britannique. Et le truc qu'il y a eu, c'est que les marchés financiers britanniques et les marchés financiers du monde entier ont très très mal réagi à l'annonce de ce mini-budget. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que les marchés financiers ont très mal réagi ? Ça veut dire quoi, les marchés financiers qui réagissent mal ? Ça veut dire que les valeurs boursières des principales cotations britanniques ont chuté. Ça veut dire que la livre sterling, la valeur de la livre sterling s'est effondrée, preuve de la manque de confiance des investisseurs du monde entier dans la valeur de la monnaie britannique. Ils se sont même retrouvés à parité avec le dollar pour la première fois depuis énormément d'années. La Banque d'Angleterre a été obligée d'intervenir pour enrayer la chute de la livre sterling. C'est vous dire, genre comme aux pires heures de l'histoire de l'effondrement de la bourse britannique, quoi. Genre, la Banque d'Angleterre qui est obligée d'intervenir. Merci Jésus LPM pour ton prime. Les taux d'intérêt sur la dette britannique se sont envolés. Donc la confiance dans la signature britannique a reculé, ça veut dire que ça coûtait de plus en plus cher pour le Royaume-Uni de s'endetter. Or, comme nous, le Royaume-Uni s'endette tous les jours, donc ça commençait à vraiment coûter cher. Donc ça a été une douche froide sur l'économie britannique. Et pourquoi ? En fait, simplement parce que le mini-budget de Liz Truss n'était pas financé. Il n'était juste pas financé. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle a prononcé un discours en disant « Super, on va baisser les impôts sur les plus riches, de ouf. » Que quand on leur demandait « Ok, mais vous allez financer ça comment, ces baisses d'impôts ?» Et comme elle ne répondait pas à la question, parce qu'en même temps, Liz Truss, elle est en prise avec un mouvement social au Royaume-Uni face à l'inflation, sur les prix de l'énergie, sur le transport, etc. C'était quand ? C'était il y a un mois, hein. Ça je te raconte l'histoire d'il y a un mois, hein. C'est vraiment le mini budget de Truss, on est au mois de septembre dernier, quoi. Et ne pas financer ce genre d'allègements fiscaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État britannique va s'endetter. C'est-à-dire que l'État britannique annonce publiquement, on va réduire la quantité d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, mais on va pas réduire la quantité d'argent qui sort des caisses. Donc comme on a toujours autant besoin d'argent, on va s'endetter plus. Donc en fait, les milieux, enfin les Les marchés financiers, quand Liz Truss a annoncé ça, ils n'ont pas compris, super, il y aura moins d'impôts pour les riches. Ils ont compris, le Royaume-Uni va s'endetter de ouf. Et ça, évidemment, les marchés financiers, ils n'ont pas confiance dans les États qui se financent avec de la dette. Donc c'est pour ça qu'en fait, les financiers, ils ont dit non, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce budget de merde? Moi, je vends mes livres sterling, j'ai plus confiance, c'est géré n'importe comment, c'est quoi ce bordel, quoi? Et c'est ouf, mais rien que l'annonce du mini-budget, même pas son vote, hein, son annonce a été suffisante pour effondrer la confiance des marchés financiers face à l'augmentation drastique de l'endettement, à la prévision de l'augmentation de l'endettement. Nous avons décidé de nous ruiner, qu'en pensez-vous? Oui, voilà, c'est ça. Et vraiment, c'est très impressionnant, quoi. Du coup, son doigt d'honneur est un beau retour de karma. Ouais. Est-ce qu'il a été voté ce mini-budget? Non, il n'a même pas eu le temps d'être voté parce que face à la levée de boucliers et au bordel que c'était, Liz Truss, au début, elle a tenu bon. En mode, je tiendrai bon, je lâcherai rien, c'est mon budget, machin. Finalement, elle a décidé de virer son ministre du budget et d'en nommer un autre qui revient en arrière sur le mini-budget et qui annonce que finalement, on ne va pas faire ça comme ça. Donc il revient en arrière sur plein de trucs du mini-budget. Enfin bref, l'improvisation est totale. Et là, on est le 20 octobre et Liz Truss annonce que finalement, elle-même démissionne. C'est mon budget, ma bataille. Ouais. Je vis en Angleterre, c'est vraiment le chaos ici. Ah, c'est très impressionnant. Hein. C'est très, très impressionnant. Est-ce que ce genre de crise pourrait arriver dans un pays qui utilise l'euro? Sur des annonces comme ça, d'un truc aussi improvisé, non, mais on a connu la crise de la dette souveraine. Hein. C'était pas marrant non plus. Hein. Le Portugal, l'Italie, surtout la Grèce s'en souviennent. Mais c'était pas des annonces gouvernementales à ce moment-là. Donc, comme quoi, marché financier supérieur à grève et lutte sociale. Ça, c'est ton point de vue. Mais les gens qui défendent les grèves et les luttes sociales te répondraient que si Liz Truss n'a pas annoncé un mini-budget financé, c'est justement parce qu'il y avait des grèves et des luttes sociales au Royaume-Uni et que ça rendait extrêmement impopulaire d'éventuelles annonces de restrictions budgétaires sur des Britanniques qui sont déjà à la gueule. Et ils auraient pas tort, les gens, de te dire ça. C'est toujours le même parti qui reste. Ça fonctionne comment pour la remplacer? Alors, Royaume-Uni, c'est très particulier comme mode de fonctionnement, mais en gros, c'est le parti au pouvoir qui décide de la date des élections, pour faire simple. Donc, il n'y a pas de pouvoir de dissolution au Royaume-Uni. Donc, je ne sais pas quand on relion les prochaines élections, mais ce qui est sûr, c'est que les travaillistes, donc la gauche britannique, sont donnés favoris pour les prochaines élections. Surtout un budget où tu baisses les impôts des boîtes. Ouais. T'imagines? Les entreprises britanniques, ils voient le mini-budget de Liz Truss, ils se disent bah, c'est une bonne nouvelle, on va payer moins d'impôts. Et en même temps, ils ont leurs clients à l'autre bout du monde qui les appellent en disant alors finalement, on va annuler la commande. Parce qu'en fait, on n'a plus confiance dans l'économie britannique. Et là, le dirigeant d'entreprise, il se dit ah, peut-être pas une si bonne nouvelle que ça finalement, le paiement de moins d'impôts. Boris Johnson se présente à la suite de Liz Truss. Il a de l'audace. L'amorçage ou effet d'amorçage permet de préparer une personne ou un groupe de personnes via des mots, images ou vidéos cachées. Ceux ou ces stimulus insérés dans la mémoire permet l'effet d'engagement. Vous regarderez vos vidéos avec d'un autre œil. Ah non, mais c'est pas caché, moi je le dis aux gens qu'il faut qu'ils s'abonnent à ma chaîne. Parfois je le fais avec des techniques, genre petit clin d'œil comme ça, mais ils comprennent très bien le message. Hein. Regarde, ils s'abonnent. Regarde, ça va apparaître là, tu vas voir. Ah oui, non, c'est... Ah, moi, j'ai pas besoin de faire des images subliminales. Hein. Attends, moi, je manipule les esprits de manière beaucoup plus... Non, t'inquiète. Hein. Et puis, abonne-toi. Voilà, tu vois. Hop là, ça marche. Merci Mimile. Merci. Merci pour les 5 abonnements. Asfafir, merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts au chat. Merci également PV le Worm pour les 5 abonnements et offerts au chat. Alors du coup, je comprends pas pourquoi toi tu as 5 alertes alors que Asfafir n'en a eu qu'une seule. Mais merci beaucoup pour les 5 abonnements offerts au chat tous les deux, vous êtes géniaux. Merci aux autres qui s'abonnent. Genre le mentaliste. Ouais. Ce viewer était dans le coup, il avait tout provoqué. Oui, j'avais un commentaire comme ça sur. Merci pour les 5 subs offerts au chat encore une fois. Putain, il y a eu 3 fois 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup.
C'était une ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup à mes amis britanniques, du coup, qui ne paieront plus d'impôts. Ou plus beaucoup. Il y a un mec comme ça récemment qui. Dans un commentaire sur YouTube, qui m'a dit un truc du genre ouais. On se fait traiter de complotiste alors qu'on est juste un esprit critique aiguisé. Je sais plus ce qu'il défendait comme théorie du complot. Et moi, je lui ai répondu, le complotisme n'existe pas. En fait, c'est une invention du gouvernement, le complotisme, pour nous embrouiller et nous faire débattre sur d'autres sujets que sur l'actualité et la politique du gouvernement. Et, et là, je crois que je l'ai 404 erreurs. Hein ? Je crois qu'il a bugué. Mais c'est une de mes théories du complot préférées, celle-là. La théorie selon laquelle le complotisme a été inventé par la CIA. Que les complotistes sont victimes d'une manipulation du gouvernement pour leur faire croire que les vaccins ne marchent pas. Mais contre Kems, ouais, c'est ça, je la ressortirai. Ah ouais, mais sortez-la celle-là. Ah non, mais la prochaine fois que vous êtes à une soirée dans un bar, à un apéro et qu'il y a un complotiste devant vous qui vous dit non, mais de toute façon, le gouvernement nous ment et tout, vous démontez pas, vous restez solide et vous lui répondez mais tu crois vraiment à ça ? Mais attends, le complotiste, ça a été inventé par les services de renseignement. Là, le contre Kems, c'est génial. Hop là ! c'est évidemment, c'est le gouvernement qui cellule du gouvernement qui invente des histoires de théories du complot comme quoi le gouvernement mentirait et tout. Mais bien sûr, ils ont intérêt à ce qu'on y croit. Regarde, à qui bénéficie le crime ? Si vous voulez être plus vénère que ça, vous pouvez lui dire les anti-vax et les gens qui sont contre la politique du masque en France sur le Covid ont été inventés par Macron. Et par Olivier Véran, les manifestations à Paris, la machin et tout. En fait, ces mecs-là ont été inventés par Macron et par les services de renseignement. La preuve, qui est-ce qui a été élu président en 2022 ? Et ben voilà. CQFD. À qui profite ? Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Ah, merci les anti-vax. Ah bah ça, pendant deux ans, on s'est engueulé sur le masque, le vaccin et tout. Morale de l'histoire, qui est-ce qui gagne la présidentielle ? C'est Macron. Et ben voilà, t'as la preuve. À bon entendeur. Tout est lié. Donc non, celle-là, gardez-la. Gardez-la, celle-là, elle me fait beaucoup rire. Mais il y avait quelqu'un sur Facebook qui avait mis un commentaire. Il y avait un anti-vax sur Facebook qui avait mis un commentaire qui avait été pingé et qui avait circulé sur Twitter qui m'avait beaucoup fait rire. C'était il y a 2 ans. Hein. C'était au moment début de la vaccination, il y a 1 an. Un anti-vax dans un groupe anti-vax qui avait publié un commentaire, c'était le gouvernement prépare l'éradication des anti-vax, et son argument c'était de dire, si on réfléchit bien, les personnes qui refusent le vaccin ne vont pas développer les anticorps contre le virus, et donc ils vont avoir un métabolisme plus fragile au virus. Et en gros, c'était premier degré. C'est-à-dire que le mec, il écrivait un truc du genre, mais attends, je viens de percuter. En fait, les gens qui ne se vaccinent pas, et ben en fait, le gouvernement, ça les arrange bien, parce que comme ça, on va mourir. Comme ça, on pourra plus s'opposer à leur politique vaccinale. Et en vrai, et vraiment, t'étais en mode, waouh, mec. T'es à deux doigts de comprendre. Mais t'es pas loin. Il y a de la suite dans les idées. Ça avance dans la bonne direction. Mais c'était forcément un troll. En vrai, je pense pas que c'était un troll. Si ça se trouve, c'était un troll, et auquel cas, je préfère croire la vérité alternative sur laquelle c'était pas un troll, ça me fait encore plus rire. Mais si ça se trouve, c'était un troll, auquel cas, c'était un très bon troll. Mais ça joue, ça clutch pas, mais ça joue. Ouais, c'est ça. Mais c'est logique que le gouvernement a créé le virus pour que les anti-vax meurent du virus. Sans le virus, ils seraient bien emmerdés pour éliminer les anti-vax qui les empêcheraient de vacciner les gens contre une maladie. Le virus qu'ils ont eux-mêmes créé. Non, non, c'est fou. Et dans le même genre, il y avait je sais plus comment il s'appelle ce mec aux États-Unis pour MSNBC, je crois. Donc une des chaînes des télés nationales américaines qui va dans les rassemblements pro-Trump et qui fait des micro-trottoirs comme ça, micro-tendus. Et qui pose des questions aux Trumpistes, donc full complotiste et tout. Et y a une des vidéos où il interviewe une dame comme ça qui vient à un meeting de Trump, elle est en train d'attendre dehors et elle accepte de répondre à ses questions et discuter avec lui. C'est peut-être Josh Clipper, ça me dit quelque chose. Channel 5, je sais plus. Mais la meuf lui explique une théorie du complot qu'elle a lue sur Facebook.com. Elle lui explique que les dealers distribuent du crack et de la méthamphétamine dans les écoles, dans les collèges, pour droguer les gens. Et le mec, il lui fait que lui poser des questions simples en lui disant, mais on est d'accord que ça... Du fentanyl. Ah oui, c'était celle-là. Du fentanyl. Il dit, mais on est d'accord que ça coûte très cher la drogue. Et oui, ça coûte très très cher. Ouais. Enfin, donc c'est une marchandise précieuse pour le dealer. Ouais. Et donc vous croyez vraiment qu'il distribue gratuitement? Et en fait, la meuf n'arrive pas à expliquer ce qu'elle explique elle-même. Genre, c'est. Mais pourquoi des dealers distribueraient gratuitement de la drogue? Elle dit, mais je sais pas, c'est le gouvernement, c'est Biden et tout. Mais pourquoi Biden dirait à des dealers de distribuer gratuitement de la drogue? Je comprends pas. Le fameux coup des bonbons drogués à Halloween, oui. Hyper généreux quand même. Bah, ils sont de gauche, hein. Ils sont partageux, c'est pour ça. Un Guillaume Meurice américain. Ouais, mais on est un peu plus fin que Guillaume Meurice. Parce que pas une critique à Guillaume Meurice, c'est juste pas exactement le même discours. Mais c'est un peu le. Oui, c'est un peu le principe de rhétorique, ouais. Il explique comment ça, Q. C'est vrai, ça? C'est Jordan Clipper pour le Daily Show. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être. Je crois qu'on parle du même mec. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que ça doit être ça. Et donc c'est très drôle. Je vous invite à regarder. Alors si vous parlez bien anglais, évidemment, c'est pas sous-titré, mais si vous parlez bien anglais, regardez Jordan Clipper qui va faire des micro-trottoirs sur les électeurs trumpistes et c'est rigolo. C'est un rire jaune, mais c'est rigolo. Les anti-vax serviraient le gouvernement comme des opposants simplets et donc faciles à ridiculiser comparés aux opposants politiques. Donc les anti-vax ont été créés par le gouvernement. Restes en live jusqu'au 49.3 suivant. Non, je vous ai dit que j'allais me barrer. En fait, j'aime bien discuter avec vous, c'est ça le problème, mais il faut que j'arrête là. Faut se raisonner un peu. Fumez-tu? Non, c'est pas ça. À consommer avec modernisation, voilà, c'est ça. À conserver avec modernisation. Tiens, on va faire un raid chez Host. Il y a Host Politique qui est en live. C'est vrai qu'il live le jeudi après-midi, j'avais oublié, il fait pas de matinale. On va faire un raid chez Host Politique. Host Politique, si vous ne connaissez pas, c'est un journaliste lyonnais qui a travaillé à la radio par le passé, qui fait une matinale sur Twitch et qui travaille avec Usul. Usul qui est l'un des chroniqueurs de mon émission Backseat, qui travaille avec Usul à faire des chroniques, notamment pour Mediapart et pour Blast. Donc voilà. Et là, il fait des émissions très cool, il fait des revues d'actu, etc. Je vous invite à découvrir sa matinale. Ça s'écrit O-S-T-P-O-L-I-T-I-K. Boum. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Profitez bien du stream d'Os Politique. Si vous découvrez, n'hésitez pas à lâcher un follow. C'est cool ce qu'il fait. Moi, je vous retrouve demain, je sais pas à quelle heure, pour un stream. On continue à discuter du 49.3. Des bisous. Merci à toutes et à tous. Ciao, bye bye. Salut, salut tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.